All right, bon mardi, c'est reparti pour une nouvelle aventure avec Marceau et Pascal CV qui se remet tranquillement mais sûrement du carambolage, de l'accident qu'elle a causé. Salut!
Salut!
Content de te voir.
Oui, moi aussi.
On n'était pas là les deux hier. On est désolé d'avoir été absent. Moi, j'avais plus de voix hier. J'ai fait un Marceau le soir en fin de journée parce que je voulais me reposer le plus possible avant de faire Maître Marc Bellemare comme à chaque lundi. Mais j'ai pas été en mesure de faire toute l'émission. Et là, tu vois, la voix est sur le point de me lâcher, mais je pense que je vais être capable de toffer jusqu'à 14h.
Ouais, mais il y a quelque chose, on l'entend encore.
Il y a un petit grain.
T'as un petit muffler.
Il y a un petit grain, je sais pas. Il est encore couché face à l'air.
Encore?
C'est ce que ça fait. Hein?
Bon, le camping, c'est pas commencé, Yannick.
C'est ce que ça fait. Hein?
Ouais.
On dort avec la fenêtre ouverte.
Mais ça fait du bien, c'est tellement le fun, une grosse couverte, ça.
Exactement. Mm. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans ton accident? C'est toi qui es en cause, tes assurances vont-tu augmenter, ton char est-tu fini? Qu'est-ce qui se passe? Ton père était-tu en panique?
Écoute, premièrement, on va juste mettre au clair que je n'étais pas la fautive là-dedans parce que...
Jamais.
Non, mais je le suis pas pour vrai. Puis je trouve ça important parce que, mettons que les assureurs ou quelque chose écoutent, c'est quand même dans le rapport. Là.
Okay.
Fait qu'on fait bien des jokes, toi puis moi, mais il y a des affaires sur lesquelles on peut faire moins de jokes. Puis ça, c'en est pas tant une joke à faire par rapport à
ça. Les assureurs nous écoutent?
Mais non, mais on le sait pas. Puis tu sais, la vérité, c'est
run,
que...
Les assureurs sont au courant ou...
Je sais pas, mais chose certaine, ça l'était pas. Puis j'ai un peu... Je l'appelais Jessica.
Elle s'appelait Jessica.
Je suis un peu...
Fâché?
Oui, je pense que oui.
Comment ça?
Parce que ça va, tu sais, moi, ma conduite dans vie, je pense que ça va en général. Tout le monde, ça peut arriver d'être lunatique, d'échapper quelque chose ou autre, mais cet accident-là, je comprendrai jamais pourquoi c'est arrivé. Puis je sais pas encore si mon auto est perte totale ou pas.
T'étais-tu saoul?
Non, ben non, c'était hier matin. Moi, dans le fond, je suis allée au Saguenay samedi. Je suis restée là. Après ma course, je suis partie au Saguenay puis je suis restée la fin de semaine.
T'as dormi chez qui?
Des amis. J'ai plein d'amis encore au Saguenay. J'ai étudié là 3 ans. Hey, t'es-tu niaiseux? Fait que le matin, je pars, il est 6:15 dans ce coin-là. Puis je prends la route, puis je me dis, je vais me chercher un petit café. Fait que je vais me chercher un café. Je suis vraiment relax. Je suis contente. Ma prep est pleine. Je te rends place, je le sais. Je m'en fais l'open mic avec Audrey. Je suis mindée. Et je prends une route qui va simplement de devant. La fille, elle sort du Tim Hortons.
Tu prends une route qui va du devant.
Right. Tu t'en vas par en avant.
Y a-t-il une route qui va du derrière?
Non, mais c'est une voie. Fait que tu prends ta voie, puis tu t'en vas par en avant. Puis il y a une sortie de Tim Hortons qui se prend aussi par cette route-là. Fait que sortie, elle arrive pour sortir.
Ouais.
Puis je n'ai aucune idée pourquoi ni comment. Elle m'a pas vue. Mais il n'y a rien qui obstrue. Il n'y a pas d'arrêt stop. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas une voiture stationnée sur le côté qui l'empêche de me voir. Il n'y a rien qui l'empêche de me voir. Puis elle m'a juste rentré dedans. Elle a toute défaite mon devant de voiture conducteur, puis à un moment donné, je klaxonnais, puis elle me traînait. Mais je me souviens d'être dans mon auto, c'est une farce à matin. C'est pas vrai, là.
Mais c'était-tu un genre de face-à-face où elle rentrait
Elle a tourné.
Au 45?
Elle a tourné au 45, elle me tournait déçue. Elle m'a tournée déçue, puis moi, j'allais tout droit. Fait qu'elle est sortie de son stationnement, puis elle s'est dit... Je sais pas comment elle m'a pas vue, Yannick.
Là, vous
je
êtes...
ne l'explique pas.
Vous êtes emboîtés l'une dans l'autre?
Non, non. Elle m'a défoncé le devant, puis elle a continué.
Puis elle t'a traîné.
Oui. Puis je klaxonnais. J'étais comme, ben, vas-tu juste freiner? Vas-tu arrêter? Ou... Non, elle m'a traîné.
Est-ce que tu lui as vu les yeux?
Ben, j'y ai vu le visage complet, là. Okay. Hey, elle a arraché mon miroir
est-ce
conducteur.
Est-ce qu'elle te regardait à ce moment-là?
Non. Puis moi, l'affaire est que ça se passe vite, mais je vois qu'elle a de quoi dans les mains. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Je peux pas te dire, mais elle a quelque chose dans les mains. Fait que mon premier réflexe, tasse la voiture, mets ça sécuritaire sur le côté pour pas que personne s'embroche là-dedans puis on continue un genre d'impact par rapport. Je regarde, est-ce correct? Oui, elle a l'air bien, elle sort, elle a pas l'air maganée, personne semble vraiment blessé. Mais par cette analyse-là, la première chose qui me sort de la bouche, c'est « T'étais-tu sur ton sel demain? »
Elle était en train de texter.
« T'étais-tu sur ton sel? » Parce que j'ai vu de quoi dans sa main. Et elle me dit « Ben non, là, t'es pas sur mon sel, c'était juste ma boîte déjeuner. » Fait qu'à ce jour, elles sont allées chercher sa maudite boîte déjeuner de Ryan Reynolds, là, au Tim Hortons,
ouais.
Qui annonce partout, là. Écoute, moi, j'entends ça, et là, j'éclate de rire, puis c'est donc bien absurde, mon matin. La fille, elle me répond non, c'était sa boîte déjeuner.
Mais ça se peut, là.
Mais distraction au volant, tu sais, que tu t'attends pas. Là, Ryan Reynolds, je sais plus, je l'aime, je
non,
le trouvais bien cool.
Mes gars me font la même affaire.
De?
Même affaire. On s'en va chez Ronald, à Val-Bélair.
Ouais.
Puis le service au volant chez Ronald Valbevers, c'est serré. Là. Fait que tu sors du service au volant, faut que tu retournes à droite, faut que tu retournes à gauche, puis après ça, tu embarques sur le genre de boulevard. Puis après ça, un petit peu plus loin, c'est l'autoroute. Mais ça brasse d'un bord et de l'autre. Puis à chaque fois, je leur dis, attendez qu'on soit sur l'autoroute pour ouvrir votre chocolat chaud. Ouais. Mais eux autres, là, dès qu'ils le reçoivent, ils l'ouvrent. Puis là, ben regarde. Tourne à gauche. Hop, oh, papa, je l'ai échappé. Tourne à droite. Hop, oh, papa, je l'ai échappé. Oh, puis là, tu descends, tu embarques sur la route. Hop, oh, papa, je l'ai échappé.
Moi, toi, t'échappes pas le char.
Ouais. Est-ce que t'avais des coussins gonflables?
Ouais, ils ont pas ouvert parce que l'impact n'était pas chanceuse. Trop fort. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis sortie puis j'ai vu le devant de mon auto, là, Yannick, là. Hey, là, j'ai comme. Je suis pas quelqu'un de d'émotif, mettons, avec des gens que je connais pas ou autre, là, ça m'a serré le cœur parce que moi, j'ai un rapport émotif avec ma voiture. Là.
Ouais.
C'est ma sœur qui me l'a offert en partie dans un moment. Puis ma fille, elle est toute fière. Puis comme, c'est bébé, là. Mais j'ai un rapport, des fois, émotif sur des objets, sur du matériel. Puis ma voiture, c'en est un. Défoncé de même, là. Je sais pas comment. C'est pas un gros impact, là. On roulait pas à 120 km/h, là. Mais me défoncer la voiture comme ça, elle m'a arraché complètement le devant de ma voiture. Puis là, il y a un ami qui est venu m'aider parce qu'il habite à Jonquière, puis il dirait que j'en mec s'est défoncé. Mais pour moi.
Est-ce que c'était l'ami qui t'avait hébergé pendant la nuit?
Oui. Mmh. Oui. Puis là, il arrive, puis il est comme, OK.
Là, t'es consciente qu'il y a comme eu l'italien?
Ben oui, mais tu.
T'as appris l'italien.
Oui, fait que là, tu penses que je vais avoir l'accent saguenéen?
Ben là.
Tu penses, ça s'en vient que sur Duolingo, j'apprends le Saguenay.
Duolingo Saguenay?
Non! Mais écoute, on revient, mettons, à l'essentiel là-dedans. Ouais. La fille, là, son chum, il arrive. Je sais pas si tu peux dire ça. En tout cas,
eh oui,
son
chum, il arrive. Okay.
Elle écoute pas de manière.
Surtout dans mon émission.
Son chum, il arrive. Il sort de l'auto. Hey, c'est pas sérieux, ça pas encore, pas une autre fois en 3 mois.
Elle se faisait 3 fois qu'elle se plantait.
Je sais pas, mais clairement, je pense que okay. Distraction au volant, boire déjeuner Ryan Reynolds.
Fait que là, t'es pas blessé.
Non, je suis allé à l'hôpital quand même vérifier parce que contusion, tu sais.
Parce que ça se peut que ça bloque dans 3 semaines.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça bloquera pas, là. Mentalement, je suis peut-être plus affecté, mais ça, on le verra à travers le show.
En fait, tu l'étais avant l'impact, là.
Oui, mais ça peut-être replacer le tout.
Okay. Puis là, la voiture est où, là?
Je dois quand même souligner à quel point mes assurances, ça se passe bien. Là. Le protocole, je pensais que ça allait être ardu. Puis, tu sais, moi, mon auto est au Saguenay. Là, je regardais tous les billets de bus. Je faisais tout pour essayer d'être. J'arrivais pas à l'heure, c'est sûr. J'appelle les assurances. Voiture de courtoisie seulement, possible de l'avoir à 13h. Finalement, c'est un petit peu plus tard, mais quand même. Ce qui va se passer pour la suite des choses. Parce que moi, le garage avec qui je veux faire affaire à Québec. Mon père, entre autres, il a été là-dedans pendant un bout. Il connaît qui travaille bien, qui travaille peut-être un petit peu moins bien et tout. On veut l'envoyer dans un garage spécifique. Les assurances, ils se chargent de tout. Ils vont remorquer mon auto. Ça va être remboursé par mon assurance. On va faire aller l'évaluateur au garage que j'ai choisi.
Il y a un remorqueur qui va aller chercher ton véhicule au Saguenay puis le redescendre ici.
Oui. C'est un service extraordinaire.
Moi, je les adore au Saguenay, mais je pense qu'ils ont des garages aussi. Là.
Oui, sauf que c'est un choix que je fais, moi, d'avoir mon auto ici, de ne pas avoir à remonter au Saguenay, chercher ma voiture, à gosser là-dedans, ça ne me tente pas. Tu sais, au Saguenay, je ne vais pas tout le temps. Là. Fait que moi, ma voiture, je veux qu'elle soit à Québec.
Ben là, tu n'y vas pas tout le temps. Tu pourrais peut-être y aller dans les prochaines semaines.
Non, mais sérieux. L'auto s'en vient à Québec, elle va se faire réparer à Québec, mais je ne sais pas si elle perd totale. Parce que la valeur d'une voiture, c'est selon la réparation. Maintenant, tout coûte vraiment cher.
Les flics t'ont dit quoi?
Ils sont passés par après. Nous, on faisait le constat à l'amiable. Puis je leur ai demandé est-ce qu'il faut faire quelque chose de supplémentaire. Puis il a dit non, vous faites votre constat à l'amiable, ça va rester comme
le
ça.
Le responsable, pas responsable?
C'est elle. C'est entre leurs assurances. Mais elle l'a avoué, elle l'a écrit sur le constat. T'sais, tout est... Elle est honnête, là. Elle est honnête dans le carambolage. Elle est honnête dans sa façon de faire les choses. Elle l'a dit, elle l'a écrit. Et c'est clairement que j'avais rien à voir là-dedans. Moi, je vaquais à mes occupations. J'avais les yeux sur la route, j'avançais. Mais bon, tu sais, je suis quand même contente. Personne n'est blessé. Tout le monde, ça va bien pour tout le monde. Mais c'est tellement innocent.
Ah ouais, c'est juste...
C'est un accident innocent.
Ça gâche ta journée, ça te coûte un déductible de quoi, 500 000?
Je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai rien à débourser. C'est sûrement que ça va augmenter mes assurances. Mais
t'as pas un déductible minimum à payer?
Non, j'ai rien. Là. Ah ouais, j'ai rien. Okay. Je te dis, là, moi, j'ai magasiné mes assurances, puis on m'a envoyé chez l'unique, là, puis je vais le nommer. Là.
T'sais, j'ai le même.
C'est nickel.
Exact.
Ils me prennent en charge. La fille, elle me rappelle ce matin pour me parler du remorquage. Puis, c'est mon père était comme, on va le faire descendre, on a CA, on le fait descendre. Puis, il dit, tu vas embarquer avec le remorqueur. Je suis même, moi, je vais embarquer avec le remorqueur, je vais faire, 200 km avec l'inconnu remorqueur.
Oui.
Tu sais pas, c'est peut-être l'homme de ta vie.
Exact.
Je me même pas, ça va être correct là, si je peux rencontrer dans un.
Un vrai homme pour une fois.
Ben oui, c'est ça. Mais... Moi, j'en ai déjà eu des remorqueurs CRA adorables, mais qui arrivent pour un survoltage. Puis ils checkent ma roue, puis ils disent, m'a pas dit quoi, il abatte, puis ils disent, m'a te remorqué. Tu sais, ça dépend un vrai homme, là. Il y en a qui font non, c'est juste des remorqueurs. Hommes.
Les remorqueurs, c'est sur le CV. Il faut que ça soit écrit vrai homme, puis t'es embauché. Ah, je suis content que tu sois là.
Le mieux
aujourd'hui.
Assurance, puis l'unique, là.
Ouais.
Je vous les recommande.
Hey, c'était la sermentation du nouveau cabinet ministériel de Mark Carney. Y a-tu eu des surprises? Y a-tu des gens qu'on connaît qui ont été réélus comme ministres? Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi de ministre, Pascal?
Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? D'abord, là, c'est ma première question. Comment tu trouves le cabinet, sans nommer dont tu parles, là? Tu penses quoi, ce cabinet-là, ce nouveau cabinet de Mark Carney?
Ben, je connais très peu de gens. Ouais. Pourtant, je lis mes journaux à tous les jours, plusieurs fois par jour. Shafkak Ali, je connais pas. Rebecca Halti, je connais pas. Anita Hanan, je connais pas. Gary Hanan Dazangari, je connais pas.
C'est sûr qu'il a dit de même.
François-Philippe Champagne, lui, on le connaît. Mm-hmm. C'est le ministre des Finances et du Revenu.
Oui, c'est un gars qui s'affiche depuis des années, qui est bien, bien présent en politique. Mais tout ce que tu viens de dire, c'est mon premier constat. On connaît personne.
C'est ça.
Peut-être qu'ils ont travaillé en arrière depuis des années. Quand on regarde le pedigree de certains, c'est le cas.
Mais ceux qui étaient là avant, on va se le dire, c'était pas les meilleurs. Donc, de voir du nouveau dans le cabinet, même si c'est des noms que je connais pas, on va leur laisser une chance.
Oui.
Contre toute attente, Chrystia Freeland est toujours au cabinet des ministres. Elle a été mise au ministre des Transports et Commerce intérieur. Donc, il ne l'a pas sacré dehors, la belle-sœur.
Je pense pas que je suis très surprise de ça par leur proximité. Par contre, est-ce que c'était l'image qu'on voulait donner au nouveau parti avec un nouveau chef? C'est à vous de répondre au 88-971-1021.
Stephen Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et ministre de responsable des langues officielles. Mandy Gulbasti! Lui, il est ministre des Services aux Autochtones. Patty Hadjou, ministre de l'Emploi et des Familles. Sinon, Mélanie Joly, est-ce qu'elle est encore là? Oui, encore là. Ministre de l'Industrie et ministre responsable du développement économique du Canada pour les régions du Québec. Dominique Leblanc, ça c'est sans surprise, président du Conseil privé du roi pour le Canada et ministre responsable du commerce Canada-États-Unis,
des
affaires intergouvernementales et l'unité de l'économie canadienne. Donc, on voit que Dominique Leblanc continue à prendre du galon. Un gars qu'on côtoie peut-être un peu plus ici à Québec, Joël Lightbound, qui est ministre de la Transformation du gouvernement des travaux publics et de l'approvisionnement. Donc, Joël Lightbound revient dans les bonnes grâces du Parti libéral du Canada.
Des constats intéressants là-dedans, c'est qu'au total, il y a 9 ministres qui viennent d'être élus lors du dernier scrutin, là. Donc, ça fait à peine 2 semaines, puis ils sont là, puis ils sont présents, puis on leur donne des fonctions, là. Ça, c'est fascinant. Est-ce qu'on cherchait un vent de renouveau? Est-ce que ça va être payant auprès des électeurs, auprès de la politique, ça? Ou on a juste pris, justement, des gens qui n'étaient pas très connus pour dire « Mais on a fait le ménage à l'eau de Javel, là. » Ça m'intéresse de savoir. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Est-ce que c'est une question d'image en ce moment ou c'est vraiment une question de pertinence? Pas que je les proclame impertinents, mais je me demande si c'est juste visuellement et auditivement intéressant pour les électeurs parce qu'on se disait « Mark Carney, bras droit de Justin Trudeau, ça fait pas vraiment changement pour le parti. » On a-tu voulu justement aller travailler là-dessus, mettre un peu de poche de gravelle? C'est la question que je me pose.
Ouais, donc un peu le petit cabinet pour Mark Carney, puis à ça, au ministre qu'on a assermenté aujourd'hui, c'est pas terminé l'assermentation. Là. Je vois que Jill McKnight est en train de se faire assermenter. Elle est ministre des Anciens Combattants et ministre associée à la Défense nationale. On a nommé des secrétaires d'État, donc quelques secrétaires d'État aussi qui restent à être assermentés. Donc voilà où est-ce qu'on en est rendu actuellement pour le nouveau gouvernement de Mark Carney, puis les nouveaux ministres seront à découvrir.
Mm-hmm. On va assurément le faire au courant des prochaines semaines. La seule chose, c'est que je pense que ce sera plus les 6 ministres du Québec là, qu'on va côtoyer jour et nuit, là, parce qu'il va avoir bien du pain sur la planche pour le fédéral puis le provincial. Ils vont travailler en collaboration. Puis ceux-là, on les connaît.
Jean-Yves
ça change
Duclos.
Pas vraiment la carte de ce qu'on connaît.
Là. Jean-Yves Duclos, qu'est-ce qui se passe?
Mais on va lui demander.
Il va rester simple député fédéral. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec
T'es-tu
Jean-Yves
T'es-tu surpris,
Duclos?
Par exemple?
Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est quelqu'un qui était derrière Justin Trudeau. C'est
hautement affiché.
C'est un gentil monsieur, là, oui. Jean-Yves Duclos. C'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Mais en entrevue puis en communication, il y a énormément de difficultés constamment. Puis je pense qu'on l'a noté du côté de Mark Carney.
Il y a peut-être aussi, pour M. Duclos, jouer la carte de « je veux avoir l'air de quelqu'un qui est capable d'être derrière son chef quand il arrive des problématiques au sein du parti ». Il a peut-être misé là-dessus en se disant « on va me donner un poste en conséquence parce que je démontre une fidélité, une loyauté », contrairement à une Chrystia Freeland quand ça commence à brasser dans un bateau, puis ça y a peut-être pas servi parce que c'était allégeant. C'est fascinant, des fois. Le jeu de couloir en politique, là, ça peut être fascinant. Sinon, Arthabaska fait bien jaser parce que Alex Boissonneau, l'ancien animateur du Morning, ici à Radio-Canada...
Voyons, c'est un terroriste!
Oui, mais dis pas ça de même sans explication.
Ils ont dit ça! Dans les médias que c'est un terroriste!
Donc, Alex Boissonneau se présente comme... futur peut-être élu dans Arthabaska contre Éric Duhaime. Donc, cette personne...
Paye pas ses taxes, lui!
Personnalité publique qui devient, en fait, sous les rangs de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et le chef du PQ a pris la défense, justement, de son candidat dans Arthabaska face aux attaques d'Éric Duhaime sur sa condamnation pour méfaits dans le cadre du Sommet des Amériques en 2001. C'est assez particulier pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Il dit « Alex Boissonneau m'a évidemment indiqué en toute transparence dès le départ qu'il avait été arrêté à l'âge de 22 ans en 2001. Contrairement à ce qu'affirme Éric Duhaime, qui n'a jamais été condamné à de la prison, mais a suivi en collectivité à des travaux communautaires.
Ouais. En fait, Éric Duhaime n'a pas affirmé. Éric Duhaime a rapporté des nouvelles qui avaient été écrites à l'époque sur Alex Boissonneau. Et on aura Éric Duhaime pour parler de tout ça vers les alentours de midi. Mais,
on a demandé la présence, en passant, de Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin. Oui. On a parlé aux attachés de presse. On a demandé la présence d'Alex Boissonneau aussi.
Ils réservent leurs commentaires pour demain.
Parce qu'ils vont faire des annonces officielles dans Arthabaska demain.
Hey, je sais pas vous autres, là, je sais pas si vous suivez ça avec grand intérêt, là, mais il y a une job sur la terre que j'aurais de la misère à faire. Moi, j'en ai souvent parlé, là, je fais pas d'anxiété dans la vie, sauf quand je fais quelque chose de pas correct ou quand je doute. Okay? Mm-hmm. Quand je doute, là, je peux faire énormément d'anxiété, puis ça peut me réveiller à 3-4 heures du matin. Mettons que j'ai mal agi avec quelqu'un, ça se peut qu'à 3h, 3h30 du matin, dans mon sommeil, je pense à ça, puis plouf, les yeux m'ouvrent. Puis là, je commence à penser à ça en me disant, mais pourquoi j'ai réagi de telle ou telle façon? Puis il y a une job que je m'étais juré quand j'étais jeune que je ne ferais jamais parce que j'ai cette problématique-là. J'ai une âme. C'est juge. Juge, que ce soit juge au municipal, au provincial ou encore au fédéral. Mettons, juge de la Cour suprême. Je ferais jamais cette job-là. Mm. Puis je suis avec grand intérêt tout ce qui touche Équipe Canada Junior 2018 avec les 5 gars qui sont accusés de viol.
Ouais, je l'ai moi aussi dans mes nouvelles, c'était mes priorités.
Je lis ça depuis le début. Je pense que je vous en avais pas nécessairement parlé parce que, bon, il y avait d'autres choses qui faisaient la manchette. Il y avait beaucoup d'éclipses médiatiques.
Mais je le faisais en bulletin, là, mais c'était plus rond parce que c'était quotidien ou presque pendant un bout.
Puis moi, je suis un féministe dans l'âme, puis je le sais qu'il y a des gars qui agissent d'une certaine façon, des fois, qui sont vraiment pas corrects à l'égard de certaines femmes. Donc, quand une femme se dit « moi, j'ai été victime de », on dirait qu'automatiquement... Je me mets du côté de la fille en disant « m'a t'aidé, fille, passe par les bons couloirs, porte plainte, puis je vais t'accompagner, puis va à justice, je vais t'accompagner, puis à un moment donné, il y a un juge qui va te rendre justice. » Mais l'histoire d'Équipe Canada Junior 2018, c'est juste hallucinant. On parle d'une femme qui aurait pris de la boisson dans un bar, qui aurait aperçu des joueurs de hockey. Les joueurs de hockey se seraient aperçus que c'était une femme qui semblait être ouverte aux rencontres. Il y en a un qui s'est intéressé à elle. Elle s'intéressait à lui. À ce moment-là, elle est en couple avec un homme. Elle est encore à ce jour en couple avec cet homme-là. Elle allait se marier quelques semaines plus tard, après la rencontre du gars d'Équipe Canada Junior dans le bar. Elle aurait eu une relation sexuelle dans le bar avec le gars. Par la suite, elle aurait suivi le gars dans une chambre d'hôtel. Par la suite, il y aurait eu une autre relation sexuelle. Par la suite, elle aurait demandé, puis c'est au conditionnel, soit dit en passant, là, elle aurait demandé au gars que des gars d'Équipe Canada Junior se pointent dans la chambre. Ensuite, elle aurait eu des relations sexuelles avec tous les gars. Ensuite, elle aurait voulu attirer l'attention parce que les gars se parlaient entre elles, puis elle voulait du sexe ce soir-là. Et de l'autre côté, elle dit « Non, moi, je me suis fait agresser sexuellement, puis c'est épouvantable ce qui m'est arrivé. » Puis t'as le juge qui est là, qui écoute la version de la pauvre victime, qui se dit victime. T'écoutes la version des gars qui disent « Non, on n'est pas coupable », qui sont peut-être coupables, on ne le sait pas. tu veux pas être le juge de cette affaire-là?
En même temps, je veux dire, je pense que c'est pour ça qu'ils font du droit, pour des genres de causes aussi complexes que ça, où tout le monde mérite sa défense, tout le monde mérite son droit. Cependant, c'est tellement compliqué.
Puis ça y a de l'alcool!
Ça me rappelle le dossier qui avait été couvert sur le viol collectif à Victoriaville il y a plusieurs années. Pour l'avoir couvert dans la salle, c'est super sensible comme genre de dossier. Puis même certaines unes de journaux, quand tu les regardes, quand tu les compares, sont différentes dans l'approche de ce qu'on propose comme titre. C'est, par exemple, pour la presse, La défense avoue ou plaide que la victime aurait souhaité ces relations-là, en gros, mettons. Puis le Journal de Québec, c'est « elle aurait voulu ces relations-là ». La façon de l'amener, c'est aussi extrêmement sensible. Tu lis la presse, tu lis le titre, ouais. Mais tu lis pas l'article, puis tu lis le Journal de Québec, mettons, ce matin. Uh-huh. Si tu vas pas plus loin dans ton devoir, si tu veux te renseigner, tu lis le texte, ben tu peux déjà être biaisé de façon inconsciente. Imagine un juge qui se doit de rester neutre le plus possible à entendre, à voir, à percevoir le verbal, le non-verbal dans une cause comme ça. Ça doit être extrêmement difficile.
Ah, si tu veux pas. Tu veux pas. Puis quand ils rendent leur verdict, ils doivent vivre avec ce verdict-là jusqu'à la fin de leur jour. Puis imagine-toi, là, c'est des
cas... Tu veux pas te tromper, là, ni pour l'un ni pour l'autre. Là.
Mais en même temps, t'as le droit là, de te tromper. T'es humain.
Ça se peut que tu te trompes. Mais t'étais pas là. Puis les deux allèguent des choses différentes. C'est très complexe.
Faut que t'évalues la crédibilité d'une femme, puis il faut que tu évalues la crédibilité de cinq hommes. C'est une femme contre cinq hommes. Là-dedans, il y a énormément de courage, soit dit en passant. Je ne voudrais jamais être juge. Je ne serais pas capable. Je te dirais qu'il y a des causes qui sont peut-être plus faciles. Là. Tu sais, les meurtres d'enfants, exemple, les agressions sexuelles sur des enfants, les agressions sexuelles sur des femmes où les preuves sont bel et bien là, puis ça joue un contre l'autre. Mais là, c'est cinq gars qui disent « Non, nous autres, c'est elle qui nous l'a demandé. » T'as une fille qui dit « Non, eux autres m'ont agressé sexuellement. » Puis t'as toute la notion d'alcool au travers de ça, Pascal. Comment les perceptions étaient ce soir-là? C'était-tu des perceptions qui étaient erronées en raison de l'alcool? C'était-tu les gars qui étaient un peu plus frivoles puis qui ont fait des affaires que normalement, dans la vraie vie, ils l'auraient jamais faites?
Ça reste la vraie vie.
C'est-tu elle qui s'intéressait à un gars, finalement, les gars l'ont tout agressé? C'est-tu elle qui voulait se faire passer dessus par l'équipe au complet? Puis après ça, le lendemain, elle a regretté puis elle s'est dit « Hey, finalement, je suis bien avec mon chum, mais je vais être obligé d'y avouer qu'est-ce qui s'est passé. » Puis au gros pire, je dirais que c'est une agression sexuelle. Sérieux, c'est une histoire complètement débile. Il va y avoir un film là-dessus.
Ben, je sais pas pour le film, mais quel complexe.
C'est
qu'on peut pas beaucoup commenter en ce moment avec les informations. Tu sais, je veux dire, c'est extrêmement sensible.
Commenter, là. C'est tel que tel, mais c'est juste que c'est un job que je ne ferais pas être juge. Au même titre que je serais pas capable d'être avocat de la défense puis de défendre un gars qui est accusé de pédophilie.
Mais ça, c'est tellement intéressant. L'ancien avocat de la défense, Maxime Roy, Maxime Roy qui est rendu juge
qu'on
maintenant.
Qu'on avait reçu ensemble.
Oui, on l'avait questionné justement à savoir, y a-t-il des choses que tu ferais pas, que tu ne défendrais pas? Moi, je me souviens, tu sais, mon ex est avocat maintenant, puis j'avais eu une discussion avec lui au restaurant avant qu'il choisisse quel droit, quelle branche de droit il va choisir pour le reste de sa carrière. Puis j'avais eu justement un genre de discussion sur « Hey, si c'est la défense, là, ça change quand même le mode de vie, ça change quand même nos discussions, ça change quand même ce qui va suivre, même si c'est ta vie personnelle.
Ouais. »
Il y a une implication de couple là-dedans aussi, de famille. Quand t'es avocat de la défense, puis ce qu'il me disait, c'est « Ouais, mais c'est tellement intéressant, la défense. » Là, on revient au plancher des vaches, on va y aller avec le minimum. Il dit « La défense... » est intéressante. L'exercice du droit est intéressant. C'est une réflexion qui est pragmatique. Il n'est pas avocat de la défense maintenant. Il est avocat constitutionnel. Probablement la chose la plus emmerdante que tu peux avoir en droit, mais lui, il tripe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, OK? Mais c'est fascinant. Pareil, c'est vrai que tout être humain a droit à une défense. Si on allègue des choses contre toi, Yannick, et que tu n'as pas commis ces actes-là, tu vas avoir l'avocat de la défense qui va être avec toi pendant une bonne durée du procès. Tu vas être vraiment content de l'avoir. Tu vas peut-être paraître pour un crotté. Lui va peut-être paraître pour un crotté. Mais si tu n'as rien fait et ça n'existe pas, ça reste intéressant. Mais la limite, par contre, humaine derrière ça, à éplucher des dossiers et essayer de défendre. Sauf que Maître Roy, qui est maintenant juge, disait, autre, mettons que la pédophilie est... les cas qu'on a de la misère à faire, dont lui choisissait de ne pas défendre de pédophile ou de présumer pédophile, ce qu'il rapportait, c'est qu'il y a des causes dans lesquelles il ne s'est pas obstiné, qu'il a essayé de convaincre même son client de plaider coupable. parce qu'il savait que c'était indéniable, il était coupable.
Ah non, c'est sérieux, ça doit être énormément difficile. Faut que ça prend quelqu'un pour défendre ces crottés-là. Là. Quand tu te vois confier cette tâche-là, puis tu es un père de famille, puis tu t'aperçois que lui, il est bel et bien coupable, les preuves du côté de la couronne sont accablantes, puis lui, il décide de... Non, moi, je suis non coupable. Puis là, tu trouves la faille, Pascal. Tu trouves la faille qui fait en sorte que la perquisition faite par les policiers était complètement illégale. Puis là, ça fait en sorte que le procès avorte. Fait que tu remets, par ton travail, tu remets un pédophile en liberté. Puis là, 5 ans plus tard, tu le revois passer dans le Journal de Québec.
J'ose croire, parce qu'en même temps, tu as le bénéfice du doute. Faut que tu crois ton client et payé par ton client. Je comprends ton point. Sauf que j'ose croire que si, mettons, l'avocat est sûr, puis qu'il y a des preuves tangibles, puis que c'est indéniable, pour reprendre le mot, tu fais comme Maître Maxime Roy, puis tu dis hey, plaide coupable. Plaide coupable, on va gérer la suite.
Exact. 11h57, le pit stop, il n'y en a pas dans les prochaines minutes. Denis Gravel qui est absent aujourd'hui. C'était une journée chaotique hier sur les zones de boulevard. Puis merci à toute l'équipe qui ont décidé de remplacer à main levée tous les gens qui manquaient hier. Pascal CV qui a foncé délibérément dans une jeune femme qui est allée chercher un genre de Tim Hortons.
Sérieux.
Visiblement, tu as un problème avec les petits matins.
Visiblement, toi, tu as un problème avec dire la vérité. Là. C'est pas du niaisage, là.
Moi qui manquais de voix.
Je peux niaiser sur... si tu veux qu'on dise que j'étais en date au Saguenay, si tu veux que je dise que j'ai un nouveau chum, si tu veux qu'on peut niaiser, mais pas sur la responsabilité d'un accident. Yannick Marceau,
les gens sont
le Benadryl te fait pas.
Exactement. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous transmettre. Merci d'être nos yeux, nos oreilles.
Au cachot, Marceau.
Quelqu'un me demande si je suis sur les médicaments présentement. Mais Pascal l'a dit, elle a vendu le punch. Je suis sur les Benadryl. Je m'en vais prendre un shooter, justement, de Benadryl dans les prochaines
secondes. On va faire
secondes.
Ça en gang, OK, tout le monde. 418-971-1021. On va essayer de passer à travers Marceau.
On revient. Et Pascal, on te suggère de suivre des ateliers de gestion de la colère.
Super! Avant de foncer encore dans quelqu'un.
Exact! Ça te ferait du bien.
Marceau, le boulevard, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Ah, le power forward du pit stop est en vacances aujourd'hui pour cause de maladie. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement, puis il sera probablement de retour demain avec nous. Pascal CV est avec nous. Moi, je suis là, puis on a Éric Duhaime qui est en attente au téléphone. Le peut-être prochain député d'Arthabasca, qui sait, mais du moins pour l'instant, il est candidat et chef du Parti conservateur du Québec. Il sera avec nous dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans Arthabasca dans les dernières heures, Pascal?
Oh, ça brasse. D'abord, on a annoncé Alex Boissonneau comme nouveau candidat pour le Parti québécois pour la partielle d'Arthabasca. Donc, il va affronter Éric Duhaime. Éric Duhaime qui est déjà bien implanté avec sa candidature. Alex Boissonneau, ça vous dit quelque chose? Ex-animateur de l'émission du matin à Radio-Canada ici à Québec. Donc, là, ça fait grand bruit. Et à partir de ce moment-là, on commence à farfouiller dans certaines choses. Et ce qu'on apprend par des nouvelles, c'est qu'Alex Boissonneau avait été arrêté en 2001 en marge du sommet des Amériques. Il avait comploté pour ouvrir une brèche dans une immense clôture qui était utilisée dans le cadre de l'événement. Il n'a pas fait de prison. Avec un procès, par contre, il a dû faire des travaux communautaires. Et Éric Duhaime a décidé de commenter le tout. Il l'a fait au micro de Patrick Lagacé. Entre autres, des gens se sont retournés vers cette situation-là en disant qu'Éric Duhaime est un petit peu explosif dans ses propos. Pour aujourd'hui, on a essayé d'avoir tout le monde. Finalement, on voulait Éric Duhaime, on voulait Paul Saint-Plan-Pamandon là-dedans, on voulait Alex Boissonneau, on voulait que tout le monde parle de cet affront-là politique et affront historique de l'histoire d'Alex Boissonneau en onde. Puis on a Éric Duhaime qui a répondu à l'appel.
Salut Éric Duhaime!
Bonjour Yannick!
Merci d'être là ce midi. Pourquoi avoir décidé de remettre cette information-là publique dans cette belle aventure d'Arthabasca?
Mais d'abord, moi, je ne savais pas que Alex Boissonneau avait un passé criminel. Je l'ai appris par Philippe Bonneville, journaliste au 98.5 à Montréal. C'est comme ça que la nouvelle est sortie. Là. C'est lui qui avait cette information-là. Moi, au contraire, quand ils ont annoncé sa candidature, j'ai même écrit publiquement que je le trouvais sympathique et que j'avais hâte de débattre avec lui. Là, puis bon. Mais sauf que là, quand j'ai lu ce qu'il avait fait, c'était quoi son passé, là, c'était une autre paire de manches. Et là, si j'avais beaucoup de questions pour Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'il accepte un candidat. Puis je comprends que ça fait longtemps, là. Puis je comprends qu'il a eu son pardon. Puis je comprends qu'il pense plus ça, puis il est pas d'accord avec ça. Mais imaginez deux secondes si quelqu'un au Parti conservateur, un candidat, avait frayé avec l'extrême droite il y a plusieurs années, puis qui aurait été arrêté en possession d'explosifs et accusé, qui aurait passé 41 jours en prison préventive parce que le juge avait décidé qu'il était un danger pour la société, qui avait été condamné à des travaux communautaires. Pensez-vous que cette personne-là, aujourd'hui, pourrait être candidate puis que ce serait comme une marche dans le parc?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Puis t'aurais pas eu de passe-droit, mais garde. Écoute, juste le moment où t'as voulu aider un ami lui, en lui prêtant ta maison,
ben oui.
Tu as dit « paye tes taxes municipales », il l'a pas fait. T'as fait la manchette pendant trois
semaines.
Pendant
deux semaines.
Pendant trois semaines. Puis là, ben Alex Boissonneau, il y a cette information-là qui sort au 98.5 à Montréal, comme quoi il a été pris en possession de cagoules, de bâtons de baseball, de boucliers, de lance-pierres, de matériel militaire, donc des bombes fumigènes, des masques à gaz et des billes d'acier. Et là, Radio-Canada, la presse, le Parti québécois essaient de tuer la nouvelle aujourd'hui. Là. Mais il aurait bel et bien fait 40 jours de prison, Alex Boissonneau.
Oui, absolument. Et c'est quoi les critères de Paul Saint-Pierre Plamondon pour ces candidats? Moi, c'est facile quand un adversaire est d'un câble de se situer là. Mais prenez un pas de recul là, puis demandez-vous toujours qu'est-ce qu'on ferait si c'était un des nôtres. Ben moi, je me suis posé cette question-là lors de la dernière campagne électorale parce que j'avais une candidate qui avait eu des propos violents sur les réseaux sociaux, puis j'ai choisi de la retirer. Il y avait d'autres candidats qui avaient des propos douteux, de mauvais goût, mais j'ai décidé de les garder parce que j'avais mis la ligne, puis je l'avais dit à tout le monde, puis je l'avais dit publiquement aux médias. À partir du moment où il y a quelque chose qui est criminel et qui est violent, ça n'a pas de place en politique. Je ne peux pas tolérer ça comme chef de parti.
Une brèche dans une clôture, parce que c'est sûr qu'on se le fait écrire. C'est sûr que le débat actuel, c'est dans évaluer à quel point c'est criminel ou pas, parce que c'est un procès. Il y a quelque chose de criminel derrière ça. Mais toi, tu évalues les gestes d'Alex Boissonneau de comment, quelques années plus tard, sur le fait qu'il avait 21 ans et tout. Est-ce qu'il y a des nuances à appliquer?
D'abord, il avait 22 ans. Là, il n'était pas un ado là, de 15 ans. Il savait ce qu'il faisait. Deuxièmement, il avait été infiltré parce qu'il était à la tête de l'organisation
qui
s'appelle Germinal. C'était lui le leader du groupe. Il avait été infiltré par la GRC. Et il avait demandé à l'agent de la GRC de transporter des cocktails Molotov. Ça, c'est écrit dans les documents du procès. Là. C'est pas moi qui invente ça. Là. Donc, jusqu'où il était impliqué? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Là. Et quand ils ont été arrêtés, tantôt Yannick a expliqué là, toutes les ce qu'ils ont trouvé auprès de ces gens-là. C'est pas des affaires innocentes, là. Et surtout que c'est un gars qui avait un passé, il avait étudié au collège militaire. Puis même la GRC s'en est mêlée dans l'enquête pour renseigner les policiers au Québec pour de craindre ce groupe-là, parce qu'ils étaient vus comme des gens qui présentaient un danger particulier. Donc, ça fait longtemps, c'est sûr que le gars, il peut avoir changé, mais ça fait partie de qui il est et de ce qu'il a fait. Et à un moment donné, il faut assumer aussi son passé. Là. On peut pas essayer de cacher ça. Puis ce qu'on veut savoir, c'est où la limite au Parti québécois? Parce qu'il y a été une époque où René Lévesque ne tolérait pas ça. Tous les gens qui étaient associés au FLQ à l'époque, René Lévesque était allergique à ça. C'était le gars qui a le plus condamné le FLQ pour la violence politique au Québec de tous les chefs politiques qu'on a connus de notre vivant.
Mais tu t'attends à quoi, Éric? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il arrive sur la place publique, mettons, demain dans Arthabasca, puis qu'il dise erreur de jeunesse?
Oui, vas-y. S'il te plaît. Je veux juste dire que René Lévesque n'acceptait pas ça. Puis il y avait même eu des militants qui avaient applaudi un ancien FLQiste et il avait été le premier à dire ça n'a pas de sens, puis il s'était fâché. Il avait juste applaudi quelqu'un plusieurs années après la crise d'octobre qui avait applaudi un FLQiste repenti. Là. Pensez-vous vraiment qu'il l'aurait pris comme candidat dans son parti? Or, M. Boissonneau, en plus de ce qu'on sait sur l'extrême-gauche puis l'organisation qu'il dirigeait, en plus de ça, quand la police est arrivée chez eux, il y avait un portrait de l'avocat des FLQistes, Robert Lemieux, qui était affiché sur sa porte d'entrée. Fait que c'est quoi ces alliances, ces allégeances par rapport au FLQ? Ça aussi, c'est des réponses auxquelles il va devoir répondre, okay. Auxquelles Paul Saint-Pierre Plamondon va devoir répondre demain.
Ça, on entend bien, tu voudrais une réponse, mais est-ce que tu veux qu'il retire sa candidature? Comment tu vois ça, toi, en tant que compétiteur là-dedans?
c'est pas à moi à dire au Parti québécois qu'ils doivent présenter, qu'ils doivent pas présenter. Là. Ça, ça leur appartient. Puis ultimement, c'est les électeurs qui vont juger. Cela étant dit, moi, je ne demande pas son retrait comme candidat. Au contraire, moi, j'espère qu'il va être candidat du Parti québécois, puis j'espère que les gens vont être renseignés. Moi, mon job, là, c'est de m'assurer que les gens sachent qui il est, puis qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, j'ai pas, moi, mon, puis c'est ça que je vais m'activer à faire. Il faut que les gens qui vont voter soient en connaissance de cause, qu'ils apprennent pas ça au lendemain des élections.
Non, effectivement. Moi, c'est une information que je n'avais pas. Pourtant, j'étais en contact avec les gens de Radio-Canada pendant des années, et jamais j'aurais pensé que l'animateur du matin, quoi, depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près, aurait fait une affaire comme ça dans sa jeune vingtaine. Puis tu sais, Eric, moi, je suis un gars qui est pour la deuxième chance, là. Mais quand tu planifies des gestes comme ça, puis qu'après ça, tu veux représenter une démocratie, je trouve ça particulier.
Oui. Puis tu sais, rappelez-vous une chose, là. Gabriel Nadeau-Dubois, toute sa carrière politique, on lui a reproché d'avoir été le leader des étudiants où il y avait eu des manifestations violentes et qui ne les avait pas condamnés. Gabriel Nadeau-Dubois n'a jamais été reconnu coupable, n'a jamais même été accusé d'avoir fait quoi que ce soit de criminel, encore moins de s'être promené avec des bombes. Et pourtant, politiquement, ça y a nuit énormément tout au long de sa carrière. C'est rien comparé à ce que Alex Boissonneau a fait, là. Fait que, tu sais, il y a des conséquences politiques. Moi, j'ai confiance que les électeurs, ils vont voir clair là-dedans. Puis ce que tu soulignes là, c'est ça, Yannick. Là. Tu peux pas avoir fait des gestes aussi graves, antidémocratiques et violents, puis après ça, prétendre être celui qui va sauver la démocratie. Là.
Parce qu'il y a une différence entre faire une brèche dans la clôture, là, puis te faire prendre avec des billes d'acier. Là. Quiconque connaît un peu l'histoire des explosifs puis comment créer des dégâts sait à quoi servaient ces billes d'acier-là. Là. C'était pas pour jouer aux billes avec ses amis. Là.
Puis surtout que, rappelle-toi une chose, là. Moi, je suis à Victoriaville, dans le comté d'Arthabasca. Là. Ici, en 2012, la pire manifestation violente des Carrés Rouges a eu lieu ici, pendant un congrès du Parti libéral du Québec. Et il y avait eu 4 policiers qui avaient été battus par les manifestants. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça, là. Mais ça a laissé un très mauvais souvenir aux gens du comté. Fait que de voir un gars qui a ce passé-là venir se présenter dans le comté où ça a eu lieu, ça aussi, ça va jouer dans la balance. Puis l'autre affaire...
Ce serait pas mieux de démissionner dans ce cas-ci de sa candidature? Pour toi, mettons, Eric.
Ben non, moi, ce qui reste, là, c'est aux électeurs. Comme je te dis, moi, je décide pas que tu sois candidat contre moi ou pour moi, je sais pas. Moi, je décide les candidats conservateurs, puis ça finit là. Mais puis l'autre élément, ce groupe-là dont on parle, là, c'est un groupe d'extrême-gauche, tu sais, anticapitaliste, anti-business. T'es à Victoriaville, t'es dans la MRC de l'érable, t'es au cadre, t'es au royaume des PME. Comment les entrepreneurs vont accueillir la candidature d'un gars qui a passé une partie de sa vie à militer activement pour une organisation violente, anticapitaliste? Ça aussi, ça, il va y avoir des questions à se poser pendant la campagne électorale.
Là, on me dit qu'Alex Boissonneau a confié à son chef qu'il avait fait ça dans sa jeune vingtaine, OK?
Oui.
Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a consulté les dossiers de police pour voir si tout ça, c'était vrai?
Ça, c'est toutes des questions qui vont devoir lui être posées demain. Moi, j'ai confiance que les médias vont faire leur travail. C'est sûr qu'il va pouvoir aller au fond des choses. Jusqu'où il était au courant de ce qui s'est produit. Est-ce qu'il a lu la même chose que moi j'ai lu hier soir puis les cheveux m'ont dressé sur la tête? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va faire encore couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et c'est une drôle de décision. J'ai jamais vu ça, en fait, une affaire comme celle-là. Là.
Vous avez un débat, Eric, je veux aller plus loin parce que le temps avance, mais vous avez un débat en ce moment sur X, toi et Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous vous répondez encore, il y a 51 minutes, il y a une réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon à un de tes tweets. Il dit « Voici des propos et des affirmations que vous avez tenues dans un passé plus récent que votre jeunesse. » Puis là, il en décrit quelques-uns, il les nomme. Il souhaite peut-être que toi, tu y vois une contestation de sa part à ce que tu te présentes aux élections. Il dit, ça en dit long sur vous, il me fera plaisir de vous répondre sur le fond demain parce qu'il va avoir point de presse dans Arthabasca.
Oui.
Est-ce que tu vas te présenter à ce point de presse-là? Est-ce que tu vas vouloir jaser avec Paul Saint-Plamondon après?
Je suis comme quelqu'un qui est bien élevé. Là. Je me présente quand je suis invité. Mais c'est sûr que présentement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'apprécie pas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il essaie de jouer au fin finot. Il me parle de propos que j'avais tenus avec ma Nathalie Normandeau, c'est à Gaspésie. Là. C'est pas de ça dont il est question. Là. On parle d'actes de violence. On parle de son candidat, on parle de son passé criminel. Après ça, il me dit deux choses aussi. Dans son premier tweet, là, ce matin, que j'ai pas aimé, là, il essaie de jouer avec les mots. Il dit « Ah, il a jamais été emprisonné. » Non, il a jamais été condamné pour la prison. Il a été condamné à des travaux communautaires. Ce qu'il oublie de dire, c'est moi, c'est pas ça que j'avais écrit. De toute façon, contrairement à ce qu'Éric Duhem affirme. Mais moi, ce que j'avais écrit, c'est qu'il avait passé 40 jours en prison, puis je demandais si ça effaçait son crime aux yeux de Paul Saint-Germain.
Ouais, c'est en détention préventive.
Mais il a quand même passé 40 jours en prison, oui. C'est vrai. Puis il essaie de dire que c'est pas vrai. Après ça, il dit « Oh, c'est pas vrai, il a jamais été arrêté en possession de billes d'acier ou d'armes ou de... » Ben là, je m'excuse, mais c'est pas moi qui le dis, c'était les médias qui ont rapporté à l'époque les propos de la police. Contrairement à ce qu'Éric Duhem affirme, j'affirme rien, je cite ce qui était écrit dans les médias, puis ce que les policiers ont dit. Fait que tu sais, au lieu de l'assumer, de dire, regarde, je suis au courant de tout ça, puis j'assume, puis les électeurs vont juger. Non, il essaie de jouer au fin finou, puis il essaie de me faire passer pour un menteur. C'est ça qui m'écarte. C'est toujours le même problème avec Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai toujours l'impression que c'est un visage à deux faces. D'un côté, il va être le gendre parfait, puis c'est une image que certaines personnes ont de lui, mais de l'autre, j'ai jamais vu un politicien comme ça, incapable d'admettre la réalité, puis essayer de jouer pour essayer de montrer qu'il est plus fin que tout le monde, puis penser qu'il peut s'en sortir. Je m'excuse, mais moi, je lâcherai pas le morceau, peu importe les conneries qu'il peut écrire sur les réseaux sociaux.
Éric Duhem, merci.
Toujours un plaisir. Bye.
Bye-bye. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Je tiens à vous dire qu'on a demandé ce matin aussi à l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon de réagir aux propos d'Éric Duhem. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit avec son équipe qu'il réservait ses commentaires pour demain, mais d'ici là, ben, il s'exprime sur les réseaux sociaux de ce que je comprends. Est-ce que c'était une nouvelle qui était pertinente là, de savoir que le nouveau candidat pour le Parti québécois dans Arthabasca avait fait ça dans sa jeunesse? Moi, je pense que oui.
Moi aussi, je pense que c'est à savoir parce que, je veux dire, tout le passé d'un politicien ou d'un futur politicien, d'un candidat en politique est souvent épluché.
Oui.
Après, c'est comment tu réagis à ton passé, comment est-ce que tu agis avec ton passé. Ton passé fait partie de toi. On ne peut pas le dissocier de ta personne, mais on peut évoluer. Est-ce que l'âge pour vous de Alex Boissonneau fait une différence avec des comportements qui auraient pu tenir versus... l'âge qu'il a maintenant et la personne qu'il est maintenant, ben c'est pas mal à vous de choisir au 88-971-1021, mais de l'exposer, d'avoir un pedigree de... Puis là, on parle de quelque chose qui est allé en procès. Je pense que c'est d'une évidence. Paul Saint-Pierre Plamondon devait savoir qu'il y avait un risque que ce soit exposé, parce que si les deux hommes se sont parlé hors d'onde, on va le dire comme ça, c'est parce qu'il y avait un risque que ça arrive à un moment ou à un autre. Puis ça, c'est si le journaliste n'avait pas appelé Alex Boissonneau avant de sortir sa nouvelle pour dire « As-tu des commentaires? » Parce que moi, je sors ça. Et connaissant d'anciens collègues, moi, les gens qui ont sorti cette nouvelle-là, c'est d'anciens collègues. Je travaille avec eux pendant des années. C'est la façon de faire habituelle d'aller demander le commentaire à la personne. Est-ce que ça a été fait là à ce moment? Je sais pas, j'étais pas là. J'étais pas dans la boîte. J'étais pas là. Mais habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je serais bien surprise du contraire. Ils vont devoir répondre à ça. Il va y avoir énormément de questions. Peu importe les réseaux médiatiques demain, à suivre si ça va vous convaincre ou pas pour la suite des choses. Mais c'est vrai que c'est un pedigree. On parle pas de ce qui s'est passé dans une chicane.
Ouais. Tu sais, on dit qu'en affaire, il n'y a pas d'amis, mais je décèle chez Paul Saint-Pierre Plamondon une certaine faiblesse. Puis c'est une faiblesse en tant que chef, là. Quand tu es dans un parti comme ça, c'est qu'il y a énormément d'empathie. C'est un homme qui est extrêmement sensible. Là, il y a un candidat qui est allé le voir, qui a dit « Paul Saint-Pierre Plamondon, je veux me présenter dans Arthabasca. Je suis le morning man le plus écouté à Québec. Je suis prêt à lâcher ma job pour être député dans Arthabasca, mais j'aimerais te dire une chose. » Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « Oui, quoi, mon beau Alex? Ben, j'ai fait une connerie quand j'avais 21-22 ans, puis ça s'est ramassé en cours, puis j'ai été déclaré coupable. J'ai pas fait de prison, j'ai pas été condamné à faire de la prison, mais j'ai purgé une peine dans la collectivité, blablabla. Bla, 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 bla. » Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit oui. Il a lâché sa grosse job à Québec. Il a mis son équipe à Radio-Canada dans l'embarras parce que à Radio-Canada, lundi, tout le monde était stupéfait de cette nouvelle-là. Ouais.
Mais là, ça...
Ce qui fait en sorte qu'ils doivent se revirer de bord assez rapidement.
Mais c'est toujours le courant. Là,
mais il ne peut pas revenir.
Oui, mais Yannick, j'ai travaillé avec du monde qui faisait un jeu entre
point.
La politique et les médias.
Reviens
c'est tout le temps le même que ça
la
se
sensibilité,
passe.
OK? Là, lui, là, il a accepté le candidat même s'il avait fait ça. Puis il sait que lui, c'est un non-retour à sa job, là. À Radio-Canada.
Non, c'est terminé. Il devait le savoir lui aussi, là, Alex Boissonneau. Là.
Je pense que si c'était François Legault, si c'était Éric Duhaime, si c'était le futur chef du Parti libéral du Québec, je pense qu'on aurait tout simplement dit, tu sais quoi, merci de t'être intéressé à notre parti, mais on va passer un prochain appel. Mais chez Paul Saint-Pierre Plamondon, je remarque une certaine empathie puis une certaine... je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est un gars qui est tellement proche de ses émotions qu'il va rester avec cette candidature-là dans Arthabasca et il va vivre avec le résultat.
Quand je regarde la guerre de tweets en ce moment là, entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime, les deux évitent pas nécessairement des choses. Je comprends dans le dernier tweet de Paul Saint-Pierre Plamondon qui était au courant même de ce que possédait Alex Boissonneau à ce moment-là, des dispositifs fumigènes. On parle d'objets qui font de la fumée. Il défend que c'était pas des objets qui visaient à blesser, contrairement à ce qui a été rapporté.
Ben, les billes.
Après, on dit qu'il n'a pas été en possession d'armes ni de billes d'acier. En fait, il n'a jamais été question de faire du mal ou de blesser qui que ce soit avec ou sans dispositif. Ça, moi, je le découperais. Ce que je fais d'habitude, là, quand ça arrive, je prends un copier-coller, je le mets dans un dossier Word et je suis l'actualité de jour en jour pour voir qu'est-ce qui va sortir. Moi, la preuve, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le descriptif. Je vais me fier sur ce qui va sortir par rapport à des journalistes d'enquête pour la suite des choses. Ça va nous dire si Paul Saint-Pierre Plamondon avait toutes les informations, oui ou non. Et peut-être qu'il va se braquer, qu'il va décider de ne pas le présenter avec toutes les informations. Ou
c'est
encore, il va se braquer pour aller plus loin en se disant « Cette parcelle-là, je ne l'aurai pas de toute manière. Elle est déjà perdue. Je vais continuer. Je ne vais pas proposer un autre candidat pour brûler un autre candidat que je vais présenter ailleurs aux prochaines élections. Stratégie politique. Puis on va continuer ainsi. Puis ça, ça aura été un caillou dans notre soulier. » Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, puis on en parle sur tous les paliers politiques. On joue souvent à pancarte aussi, à pancarte vedette. Puis est-ce que ça, ça fait foi de tout? Je pense que c'est un autre exemple sur lequel on peut se le demander. Est-ce que Alex Boissonneau est un criminel, un terroriste? Je peux pas aller jusque-là.
Ben, tu peux dire que c'est un criminel.
Parce qu'il y a eu procès. Je comprends dans la nomenclature, on est d'accord avec ça. Est-ce que je pense qu'il l'est encore?
Non.
Non.
Je regarde pour ce qui est des projections, Pascal, dans Arthabasca, là, actuellement... C'est un comté qui serait pivot s'il y avait des élections demain matin, mais ça date quand même du 18 mars 2025. Là. C'est vraiment le PQ qui domine dans cette circonscription-là, mais c'est très serré. Là. Tu vois, le PQ était, le 18 mars dernier, là, le PQ était à 28%. Non, excuse-moi, la coalition était à 28%. Le PQ était à 27% et Duhaime avec le Parti conservateur était à 26%. C'est serré comme pas possible. Puis j'ai hâte de voir les prochains sondages qui vont paraître sur Québec 125, là, parce que ça va se jouer vraiment entre le Parti québécois et le Parti conservateur. Puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec les faiblesses, parce qu'il y a énormément de force, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais les petites faiblesses que j'ai notées, là, comme quoi c'est un gars sensible qui est rempli d'empathie, il va vivre avec son candidat jusqu'aux élections, et ce sera la démocratie qui fera son choix. Mais je ne veux plus jamais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon parler du fait qu'on a élu un gros orange l'autre bord qui est un criminel.
Sais-tu quoi? La dernière chose, moi, qui m'apparaît évidente, puis je suis bien triste de le constater, là, c'est que j'aimerais ça les entendre à effet inverse ou cas inverse. Puis ça, je le sais que c'est une game politique. Au même titre qu'Éric Duhaime, tantôt, il me dit... Ah, j'aimerais juste ça finir. Tu sais, en ce moment, on est en gestion de crise, entre parenthèses, là. Ils ont des messages à livrer. Ils sont contents d'avoir ces plateformes-là. C'est de la politique. Ils vont vouloir le faire. Je vais les laisser finir. C'est sûrement quelque chose qui a été écrit avec des points de forme et c'est normal. On veut passer un message. On veut se défendre. Ce serait la même chose si on avait reçu Paul Saint-Pierre Plamondon. Serait la même chose. La chose est que j'aimerais les voir à l'inverse dans la situation. Puis c'est là où ça va me donner une évidence à savoir qui fait de la bonne politique, puis on n'aura jamais cette version-là.
Je connais ta réponse. Non, mais ils se sont tous braqués sur Duhaime quand il a voulu rendre service à un de ses amis en lui disant « Garde, t'es en séparation, prends ma maison, paye le compte de taxes, puis je te charge rien de loyer. » Le gars a oublié de le faire ou il l'a pas fait ou c'était pas un si bon ami que ça. Puis on a parlé d'Éric Duhaime pendant 2-3 semaines dans l'actualité concernant le fait que c'est un chef de parti qui payait pas ses taxes municipales. Mm. Là, là, aujourd'hui, on essaie de couper complètement la nouvelle.
Mais c'est parce que tu donnes des... Là, on est en train de donner des os à des chiens. Là.
Si Dudu avait fait... Si Dudu avait fait ce que Alex Boissonneau avait fait à 22 ans, tu peux être sûr que tous les chefs de parti réclameraient sa démission.
C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire « Veux-tu qu'il enlève sa candidature? » Mais probablement que lui, dans sa stratégie politique, c'est enlève-la pas, parce que je vais peut-être gagner grâce à ça.
Exact.
Puis Paul-Saint-Pierre Plamondon, il va pas enlever une candidature, même. Ben, j'ai... En tout cas, moi, ça serait ma stratégie. Si jamais ça commence à flopper, parce que tu veux pas brûler tes prochains candidats que tu vas présenter. Si Éric a pris énormément d'avance dans la circonscription, tu vas pas aller brûler quelqu'un. Sinon, tu vas présenter quelqu'un comme pendant comme la CAQ.
Ouais.
Le petit jeune, pour petit, qui n'était pas nécessairement prêt. Ça peut fonctionner, comme ça peut flopper, mais tu vas pas brûler un candidat fort.
Les amis, on doit faire une pause. Juste vous dire que demain, si vous avez des affaires à faire dans le Vieux-Québec, là, reportez ça à jeudi ou peut-être vendredi. Parce que demain, c'est 2000 vrais gars qui s'en viennent à Québec en face de l'Assemblée nationale, c'est des camionneurs, 2000 camionneurs de l'industrie du camionnage en vrac qui vont être devant l'Assemblée nationale. Donc, ça va être l'asile à Québec, là, si bel et bien ça arrive, tout ça. Donc, Pascal, toi qui es à la recherche d'un futur mari, peut-être, sur l'Assemblée nationale, demain, tu pourrais peut-être aller couvrir ça. Des vrais toffes.
Arrêtez donc, là.
Mais bref, évitez le secteur.
Je fais des accidents pour faire Québec-Saguenay avec un remorqueur pour essayer de trouver l'amour. C'est pour être une nouvelle émission.
Midi 29-418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Il est 36 minutes, je te trouve plutôt de bonne humeur pour une fille qui s'est faite détruire sa voiture hier.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'étais neutre hier aussi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est du matériel, mais je suis quand même inspirée par cette nouvelle série qu'on va commencer. Là.
Oui, c'est Trouvons l'amour avec Pascal, puis comment ça va s'appeler?
Je pense que j'irai avec Croche ton char.
Croche ton char?
Ouais, trouve ton croche en crachant ton char. Qu'est-ce que t'en penses? On tient-tu de quoi?
Je sais pas. On pourrait dire « Rentrez-moi dedans pour un suivi » ou...
Je trouve ça vulgaire, mais ça me fait rire.
Ben, croche ton char. C'est pas ce moment.
Mais
ça.
Peut-être que ça pourrait être commandité par le Mieux Assurance, l'unique.
Ben oui.
Je pense qu'on tient quelque chose. Si célibataire et nu a existé, tout peut exister.
Exact. Mais ça, célibataire et nu, j'ai écouté ça. Puis
on en parlera tantôt, on a un invité au bout de la ligne.
Pogné mais, deux minutes.
Moi, j'ai pogné un genre de chaveugle pour 10 ans.
Oui, c'est quand j'ai vu le maringouin s'installer directement sur le petit moineau, je me suis dit, ah, tu vois, c'est là qu'on va découvrir que la violence ne peut pas tout régler.
Moi, je pensais qu'on pouvait être désespéré, mais pas à ce point-là.
418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, les amis, merci d'être nos yeux, nos oreilles sur la route actuellement sur Québec. C'est autour de quoi? 15 degrés. Je vais faire une petite demande là, météo média. Oui, c'est ça. 15 degrés toujours. Nuageux pour aujourd'hui, maximum de 16. Partiellement nuageux pour ce soir, minimum de plus 5 degrés. Pour ce qui est de demain, mercredi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 26. Jeudi, c'est nuageux avec un maximum de 24. Et vendredi, c'est une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 19 degrés. Voilà, mon invité est là. Pour les travailleurs et travailleuses des postes qui ont été en conflit de travail avec Postes Canada du 15 novembre 2024 au 16 décembre 2024, le ministre du Travail a ordonné le retour au travail de 55 000 travailleurs et travailleuses du Québec pour les postes en remettant en place la convention collective régissant les conditions de travail jusqu'au 22 mai 2025. Il reste encore quelques jours et par la même occasion, le ministre a nommé un commissaire spécial dans l'optique de produire un rapport sur les relations de travail à Postes Canada. Et ce rapport-là doit être déposé au plus tard le 15 mai prochain, donc dans deux jours. Et on a le plaisir de recevoir au téléphone Alain Robitaille, qui est coordonnateur de campagne nationale pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonjour, comment allez-vous?
Oui, bonjour Yannick, bonjour Pascal, ça va bien.
C'est un plaisir de vous parler sur l'heure du midi. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est toujours pas réglé ce conflit-là? Qu'est-ce qui achoppe?
Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui achoppent sur la table de négo, mais j'aurais tendance à dire, d'entrée de jeu, l'intervention du gouvernement, ça a tendance à pas aider à dénouer les impasses qu'on a avec notre employeur. Ce qui achoppe beaucoup, c'est une différence de vision entre Postes Canada et le syndicat des travailleurs travailleuses des postes. Postes Canada, si je peux le résumer un petit peu, ils sont très confortables dans le carré de sable qui est le service postal traditionnel, malgré le fait qu'il y a une tonne de défis à ce service postal-là, entre autres avec la baisse de la postelette et avec la compétition dans les colis. Et la vision du syndicat, ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à travers le monde ce qui se fait de mieux dans les services postaux qui sont face aux mêmes enjeux que nous. Et on a essayé de voir c'est quoi les services qui servent la population et qui redonnent de l'argent au service postal pour assurer la pérennité là, de ce service-là qu'on tient à cœur.
Parce que Postes Canada fonctionne. C'est le gros de la vision. Postes Canada fonctionne très bien. Puis quand vous avez. Bon, quand il y a eu la fameuse grève des postes, là, il y a énormément de gens qui ont des PME. Qui nous ont rapporté à quel point Postes Canada est important pour eux dans leur vie. Puis ça leur occasionnait des coûts supplémentaires de faire affaire avec d'autres entreprises. Donc, tu sais, on espère ne pas se retrouver là-dedans. Là. C'est quoi les postes de demain, Alain?
La poste de demain, ben en fait, si on veut une vision d'avenir, faut envisager, à mon avis, de diversifier les services. Ce qu'on regarde qui fonctionne le mieux à travers le monde, et je vous dirais que ça fait pas loin d'une quinzaine d'années qu'on milite pour que Postes Canada évolue et se révolutionne dans l'offre de services qu'ils offrent présentement. On a remarqué, entre autres, le meilleur exemple, je pense, c'est la France, là, mais un service bancaire postal digne de ce nom. Il y a plusieurs instances postales à travers le monde qui ont été vers des services bancaires. De un, on a des comptoirs postaux partout, dans plein de régions, et des régions où les banques se désengagent. Ben, nous, on a déjà l'infrastructure. On donne un certain nombre de services bancaires déjà, donc les mandats de poste, le transfert d'argent à l'international. Il y a encore des lois qui régissent le service bancaire postal qui existe toujours, donc ça fait une centaine d'années qu'on n'en donne plus, là, mais il y a des lois qui existent toujours. Donc, on est convaincu qu'avec ça, on est capable de servir la population, ramener de l'argent neuf et être capable de faire profiter, rayonner ça sur la population, là, puis du même coup, si on arrive à avoir une vision d'avenir, ben, on n'est plus en conflit perpétuel avec un employeur qui est réfractaire au changement. On est dans une société d'État qui est innovante, qui est portée vers l'avenir. Ça, c'est un des services qu'on souhaite donner. Il y en a plusieurs autres, là, entre autres un service de vigilance de quartier où on pense être capable de garder les gens le plus longtemps possible à la maison, donc des personnes en perte d'autonomie.
C'est ça. Service de vigilance de quartier, là, je pense que vous le mettez déjà en place. Moi, il y a quelqu'un qui a travaillé dans le monde de la radio pendant des années à Québec qui, à un moment donné, est comme un peu disparu de la map pendant plusieurs mois. Et c'est Postes Canada, Pascal, qui avait averti la police pour dire monsieur ou madame un tel, visiblement, là, sa poste n'est pas ramassée. Ce serait-il possible d'aller faire un tour? Ils ont été faire un tour, ils ont ouvert le logement, ils l'ont retrouvé mort dans son lit et il était là depuis plusieurs mois, là.
Des histoires comme ça, Yannick, il y en a plusieurs. Hein. On est un service de proximité, à peu près le dernier qui existe. Et on l'a vu beaucoup dans la pandémie. On rencontre des gens qui vivent totalement de l'isolement. Donc, ils sont complètement dans l'ombre des filets sociaux parce qu'ils ne tendent pas la main. Ben, nous, on les voit chaque jour. Et l'idée derrière ça, c'est que ça coûte, ben, d'un, c'est pas, pour certains, c'est pas une qualité de vie acceptable de se ramasser dans une institution pour personnes âgées ou personnes en perte d'autonomie. Mais en plus de ça, ben, ça coûte une fortune au gouvernement. Puis il y a une intention du gouvernement de dire on doit garder avec la population vieillissante, les gens le plus longtemps possible à la maison. Ben nous, on arrive avec une alternative à dire ben nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Nous, on peut cogner aux portes, on peut rassurer la famille, on peut rassurer le gouvernement, on peut intervenir si la personne a besoin d'aide et la mettre en contact avec les intervenants qui existent déjà. Et ça, ce rôle-là, il se joue entre autres dans d'autres pays et ça fonctionne très bien. Et ça nous rend d'autant plus pertinent qu'on l'est déjà. Et je pense que ça, c'est une autre page d'avenir de Postes Canada qui devrait s'écrire.
C'est fascinant de vous entendre parce que quand ça a commencé, cette grève-là, il y avait beaucoup d'interruptions de services qui étaient annoncées. Puis il y a eu beaucoup de gens qui disaient ben, ça va pas faire grand-chose et on le sentira pas officiellement. On l'a senti un petit peu partout. Après ça, ça a été des questionnements sur est-ce que c'est encore viable, ce modèle d'affaires-là? Et on entend votre position en ce moment qui est beaucoup moins... Comment dire? Tu sais, c'est pas toujours facile, là, parler avec des syndicats ou des gens qui sont syndiqués ou autres. Il y a comme un message, une courroie de transmission qui est toujours la même, qui est huilée. Là, on entend que vous voulez être plus efficace, plus bénéfique et plus, entre parenthèses, payant que ce que vous êtes en ce moment dans votre vocation, dans votre mission. Puis ce serait le gouvernement qui vous bloque là-dedans?
Ben, en fait, le gouvernement, il a souvent eu dans la mentalité de dire que c'est une société d'État indépendante du gouvernement. Maintenant, le gouvernement, c'est une société d'État qui appartient à la population. C'est aussi une société d'État pour laquelle le gouvernement, présentement, met de l'argent là, pour aider des prêts qui doivent être remboursés par Postes Canada. Nous, ce qu'on dit, sécurisez ces prêts-là, puis assurez-vous que Postes Canada ait une vision d'avenir, parce que visiblement, ils sont confortables où est-ce qu'ils sont. Nous, on est extrêmement fiers de faire le travail qu'on fait. On le fait difficilement. Il y a eu beaucoup de changements que les travailleurs des postes ont dû faire face. Entre autres, juste nommer les publisacs qu'on livre maintenant là, sous la forme du rabat. Ça l'a transformé en profondeur le travail qu'on a à faire. Ça fait en sorte que les gens restent de moins en moins. Beaucoup d'enjeux de santé et sécurité, mais pour dénouer ça, ben faut être capable de dire, ben on va avoir une entreprise qui est profitable, une entreprise qui non seulement est autosuffisante, mais rapporte des profits, profits qui, dois-je le rappeler, on coûte rien aux contribuables, mais quand on fait des profits, ben on redonne en dividende au gouvernement, donc on est un acteur là, de réduction des frais que les gens ont à payer, puis on le fait juste avec nos produits. Donc, trouvons une façon, il y a moyen de faire ça. On demande beaucoup présentement l'intervention du gouvernement en place. Ils nous ont retourné au travail. Maintenant, ça, c'était avant. On est face à un nouveau gouvernement. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'implique de façon à faciliter l'évolution de Postes Canada vers des services d'avenir. Puis c'est d'une simplicité de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut adapter ici au Canada. Je suis convaincu qu'il y a moyen de faire ça. Puis on est tous gagnants là-dedans. Parce que je vous dirais, les travailleurs des postes passaient 4 semaines, près de 5 semaines dans la rue pour arriver à la case départ. C'est rien de satisfaisant. On n'a aucun plaisir à jouer avec le service postal. Puis c'est l'employeur aussi, là, on est deux là-dedans. Puis avec les clients aussi, puis d'accaparer le service postal. Nous, notre objectif, c'est de livrer le courrier. On fait ça tous les jours. On livre tout ce qu'on a. Maintenant, on veut un employeur aussi qui remplit la coche de « je fais ce que j'ai à faire ». Donc, je fais en sorte que l'entreprise soit rentable. Et j'évolue vers un service postal de demain. Et c'est ce qu'on souhaite de l'employeur présentement.
Alain Robitaille, vous êtes du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Le ministre a nommé un commissaire spécial. Le commissaire spécial va produire un rapport sur les relations de travail à Postes Canada. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce rapport-là?
Je ne sais pas. Il va être déposé le 15 mai prochain, donc ça arrive à grands pas.
En deux jours.
Je peux vous dire qu'il y a eu... comment?
En deux jours.
Dans deux jours, c'est très rapide. Donc, le 15 mai prochain, il y a un dépôt de rapport. Je sais qu'il y a eu 900 mémoires qui ont été envoyées. Donc, ça, c'est pour nous, c'est positif. Là. Ouais. Quand la population se mobilise, normalement, ça sort positivement pour l'avenir postal. Donc, on souhaite que ça va être bien. Maintenant, bon, il y a une autre date importante qui suit ça. C'est le 22 mai prochain, la dernière journée de notre convention collective. Vous le disiez en entrée de jeu que notre convention collective a été reportée ou prolongée par le ministre du Travail. Ça laisse peu de temps entre le 15 mai et le 22 mai, prendre connaissance du rapport, tenter de trouver un terrain d'entente avec l'employeur et ratifier une convention collective. On a espoir de le faire. On est à la table de négociation présentement. On va tout déployer ce qui est possible pour essayer de s'entendre avec l'employeur. C'est vraiment l'optique. C'est notre optique, c'est l'optique des membres, c'est l'optique de la population. Maintenant, le gouvernement, il y a un rôle à jouer là-dedans. Puis on se dirige vers une convention négociée. Là, c'est notre soin le plus cher.
OK. Si on travaille, on prend le cas d'un syndiqué chez Postes Canada, là, qui est là depuis plusieurs années, est au dernier échelon. Il gagne combien? Puis dans le monde idéal, vous aimeriez qu'il gagne combien avec la nouvelle convention collective?
Il gagne une trentaine de dollars de l'heure. Maintenant, puis là, il y a eu beaucoup là, d'attrait médiatique sur, je pense qu'on demandait autour de 15 ou 18 % d'augmentation. Mais ce montant-là, quand on le décortique, ben c'est 15 % d'augmentation qui sont en lien avec des pertes de pouvoir d'achat qu'on a eues dans les dernières années, soit de l'intervention du gouvernement qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu négocier jusqu'à la fin avec l'employeur, ou comme par exemple, pendant la COVID, on a reporté de 2 ans la convention collective avec des augmentations salariales qui n'ont pas suivi volontairement pour pas assiéger le service postal public au moment de la COVID. Donc, tout ça fait en sorte que nos travailleurs ont perdu du pouvoir d'achat, nos travailleurs, leur famille, leur entourage, donc c'est large de portée. Et ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir un rattrapage du montant d'argent qu'on a perdu en pouvoir d'achat et une augmentation relative au coût de la vie. On a eu plusieurs années d'augmentation drastique.
Donc 18 % ce serait sur combien d'années, ça, l'augmentation?
Sur la période de la convention collective, j'imagine.
Ça dure combien de temps, une période de convention collective?
Ça dépend. Partons avec le départ, là, c'est à peu près 15 % de retard qu'on a. Maintenant, il y a des discussions, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe sur la table de négo, là, mais il y a des discussions qui ont attrait là pour voir comment on trouve un terrain d'entendre là-dessus.
Mais ça représente combien? Le pourcentage, ça représente combien d'augmentation par année?
Mettons 15 % on dirait, mettons 4,5 $. Je dis ça vite fait, là, je le calcule dans ma tête en ce moment.
4,5 $ par année?
Par heure, de l'heure.
OK. Mais là, c'est sur un an, ça?
Ça, c'est ça. Dans le fond, l'augmentation qui serait applicable, mettons, à l'ouverture de la convention collective. Mais encore là, je m'avance. Hein. Ça, c'est des demandes qu'on a. Le comité de négo va travailler dans le sens... Mm-hmm. Du meilleur intérêt là, pour tout le monde là-dedans. Là.
OK. Puis qu'est-ce que le parti patronal est prêt à vous octroyer?
Bien, c'est là que c'est un petit peu difficile. Ils sont beaucoup en mode comme coupure et flexibilité. Maintenant, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est pas pour rien qu'on arrive avec un rattrapage du coût de la vie. Il y a énormément de gens qui rentrent à Poste Canada qui démissionnent après un an, après deux ans. C'est énorme, là. Il y a un roulement perpétuel de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un signe qu'il y a une problématique à un certain point. L'employeur, lui, sa réponse, c'est de dire, ben moi, je vais un petit peu tasser l'équation humaine de ça. Moi, je veux de la flexibilité à outrance. Je veux être capable de maximiser ma livraison de colis, puis ma livraison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il faut qu'il garde un aspect humain là-dedans. Parce que s'il engage des gens qui ne restent pas, ben là, c'est une roue perpétuelle qui tourne. C'est de l'argent qui sort de la Société canadienne des postes. Et c'est des problématiques qui sont vécues concrètement sur le plancher par vos facteurs, factrices et vos travailleurs des postes, là, qui n'arrivent pas à adresser ces problématiques-là, dans lesquelles on s'enlise depuis des années par l'intervention des différents gouvernements qui viennent complexifier. Donc là, on pèle en avant depuis plusieurs années par des lois spéciales de retour au travail, et on arrive avec une situation qui est d'autant plus problématique, et un employeur qui est statique dans sa vision d'avenir de Poste Canada. C'est là un petit peu un certain nœud de la problématique ou de la complexité de ce qu'on a autour des négociations qui sont beaucoup plus larges. C'est vraiment l'avenir des postes qui est en jeu présentement.
Okay. Monsieur Robitaille, un facteur gagne à peu près au dernier échelon, là, quand il y a une bonne ancienneté, il gagne à peu près 30 $. Là, vous aimeriez un genre de 35 $, c'est bien ça?
En fait, c'était les demandes à la fin des négociations. La table de négociation, quand on était retourné au travail, c'était à peu près les demandes qu'on avait.
Et pour les autres entreprises de livraison qui ne sont pas gouvernementales et qui ne sont peut-être pas syndiquées, ça peut ressembler à quoi le salaire pour un livreur?
Je vous dirais, mettons, je pourrais comparer avec Purolator, qui est une compagnie privée, dont Poste Canada est le propriétaire, l'actionnaire majoritaire.
Ouais.
Mais c'est des salaires, si je ne me trompe pas, même, il y a des salaires qui sont plus élevés que les nôtres.
Est-ce qu'ils ont le même fonds de pension que les facteurs de Poste Canada?
C'est une bonne question. Je m'avancerai pas, je suis pas au courant. Je suis pas au courant de leur fonds de pension. Maintenant, comme je vous dis, c'est plus large que le salaire. C'est dans le fond, il y a un rattrapage financier, mais il y a beaucoup de problèmes profonds. Les PubliSac, c'est un exemple, là, mais la baisse de la postelette fait en sorte que nos routes deviennent de plus en plus longues. Moi, je suis facteur à Shawinigan, je fais à peu près 20 km par jour, tous les jours. Là, je me lève, puis c'est correct, j'aime mon travail, mais je peux pas nier que ça a un impact sur mon physique, puis que je me détériore au fil du temps, et ça, faites ça fois 20 000 facteurs factrices à travers le pays. Là.
Les facteurs ont toujours été reconnus comme étant des hommes avec des beaux mollets. Est-ce que...
Ah, oui, des pompiers mollets.
Est-ce que vous êtes mobile? Ou vous êtes encore à pied?
Moi, je suis à pied. Il y a de plus en plus d'endroits qui sont motorisés,
ouais.
Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont à pied. Comme moi, le matin, je prends le taxi pour me rendre sur ma route, donc il n'y a pas de moyen de transport autre que ça qui est offert par l'employeur.
Okay.
Et une des problématiques avec la publicité qui augmente et le volume, là, le radar, c'est ça qui a changé drastiquement notre travail. Il est pesant, il est volumineux. On manque de sacs à relais, pour donc de sacs là, pour se recharger. On n'a plus assez de sacs pour faire ça. L'employeur nous met ça dans des sacs en plastique, qui est très inhabituel, mais bon, on est rendu un petit peu là, et ça, ce n'est qu'un symptôme de la problématique, parce qu'on se met ça sur le dos tous les jours. Je fais 20 km, je me recharge plein de fois pour pouvoir remettre du poids dans mon sac, et ça, c'est jour après jour, un entraînement d'athlète, mais sans le support d'un athlète qui est normalement derrière les gens qui s'entraînent à cette hauteur-là.
Il y a des gens qui demandent si ce serait pas mieux que ça devienne privé.
Ben, c'est une bonne question. Est-ce que le mode de service postal privé serait une meilleure chose? Je suis convaincu que non. Et je vous l'explique un petit peu. Le mandat des postes est très particulier. Nous, on doit offrir un service postal public et universel. Universel, ça veut dire qu'on doit se rendre dans tous les endroits du pays. On pourrait nous comparer à plein d'autres pays. Il y a peu de pays qui ont une géographie comme le Canada, avec une densité de population pied carré aussi faible que ce qu'on a présentement. Donc, ce qu'on voit, c'est que les corridors, mettons le corridor Québec-Windsor, les milieux urbains densément peuplés, c'est là que les compagnies vont faire beaucoup d'argent. C'est ça qui permet à Postes Canada de donner un service dans les endroits les plus éloignés. Imaginez-vous le nord du Canada, le nord du Québec. Là. Donner ces services-là à la population au même coût que si ça serait une lettre de Québec à Montréal. Et ça, ce n'est que le service public qui est capable de faire ça. L'entreprise privée, soit ne livrerait plus à ces endroits-là. D'ailleurs, c'est Postes Canada qui livre le dernier kilomètre dans plusieurs des endroits ruraux, parce que les compagnies privées ne veulent pas aller là. C'est pas profitable pour eux. Et ou soit, les prix vont monter drastiquement si vous avez le malheur d'habiter dans une région éloignée. Et c'est ça qui se passerait avec un service postal qui serait privatisé. Et c'est ça l'inquiétude qu'on a. Et c'est pour ça qu'on veut être rentable. C'est pour ça qu'on veut redonner de l'argent à la société. Et c'est pour ça qu'on milite aussi fort que ça depuis une quinzaine d'années. C'est de se dire l'espoir de garder ce service-là qui est cher à la population puis aux travailleurs, mais cet espoir-là passe par une diversification des services pour amener de l'argent neuf puis faire en sorte qu'on soit très loin d'une privatisation qui serait néfaste pour la population canadienne.
Le 22 mai prochain, est-ce qu'on va avoir une entente de principe avec Postes Canada et ses employés?
Yannick, je te dirais oui. J'en souhaite fort qu'on en aille une. J'ai bon espoir. Pour l'instant, les parties sont autour de la table de négociation. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on nous enlèvera jamais. C'est une vision d'avenir qui est positive du service postal. Vous disiez, c'est pas toujours facile de parler avec les représentants syndicaux. Ben moi, j'ai la chance d'être dans une campagne qui est super positive. Fait que j'ai bon espoir que oui. Maintenant, c'est sûr que présentement, on tend la main au gouvernement. On est persuadé qu'ils ont un rôle à jouer pour permettre aux partis de s'entendre puis de s'aligner sur une vision postale commune pour le futur.
Pour plus de détails sur la campagne, c'est www.collectivitédurable.ca, M. Robitaille.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup.
Un gros merci à vous deux.
Au revoir. Bye bye. Alain Robitaille, qui est coordonnateur de campagne nationale pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Il y a énormément de facteurs qui nous écoutent. Oui. Moi, j'ai la chance de jouer avec un facteur au deck. Puis, effectivement, quand tu es un facteur qui se promène avec ta poche, toi, tu dois en voir dans ton secteur, Pascal.
Oui.
Secteur des Limoilou, là, quand tu montes les escaliers en colimaçon là, pendant 4-5 heures en ligne, c'est raide sur le corps en sacrifice.
Là. Ils sont présents, puis ils sont encore pour beaucoup avec ces poches-là. J'ai le souvenir clair de même une factrice qui était dans le coin de mon école secondaire dans le temps. Puis moi, je marchais quand j'étais chez ma mère pour aller à l'école. Puis elle me disait si la cloche avait sonné ou pas. T'es en retard, cours! Ou, tu sais, ils sont tellement implantés dans leur milieu qu'ils nous voyaient à chaque jour, puis qu'on avait un lien indéfectible avec eux. Mais ils marchent, là, parce que pour la recroiser à 20 km plus loin, comme disait M. Robitaille.
Mais 20 km de marche par jour, là.
Faut vouloir.
C'était un bon entraînement pour le Kilimanjaro, Pascal.
Oui, je change de job et je deviens
exactement.
Factrice.
Midi 57, on fait une courte pause, on vient. 418-971-1021. Comment ça va votre mardi? Est-ce que vous en profitez? Vas-tu bien à job? Le boss, es-tu bien sympathique? Ton boss, Pascal, es-tu bien sympathique?
Oui, très smart. Mais on en a 150 000 ici. Oui.
Mais moi, je pense à Nicolas Leclerc. Là.
Oui!
Chaque fois qu'il me voit, il se demande ce qui se passe.
Chaque fois qu'il...
C'est qui, lui?
Chaque fois qu'il te voit, il se dit je pense que je vais pas y parler parce qu'il y a des problèmes qui vont venir avec ça.
Il part comme un système de reconnaissance faciale. Pour se souvenir de... Attends, je l'ai-tu bien embauché? Bref, on a des bons patrons. J'espère que vous en avez aussi. Pat Raymond, le spécialiste des chiffres, le gars qui nous parle de taux variables et de taux fixes. Vous allez l'entendre dans les prochaines secondes. Qui c'est? Ben, c'est le gars derrière le podcast Financièrement parlant. C'est aussi un ex-gestionnaire de patrimoine. C'est aussi un ex-militaire à qui j'aime bien jaser d'argent. Salut mon ami!
Hey, comment ça va vous autres?
J'aurais dû ajouter indépendant de fortune.
Ah ouais?
Ouais, indépendant de fortune.
Mais j'ai jamais vu ça comme ça, moi.
Mais ça veut dire quoi quand t'as été indépendant de fortune? Parce que, mettons, Warren Buffett est indépendant de fortune, il peut acheter le Québec au complet.
Ben, c'est plus que t'as pas besoin de travailler.
Mais toi, t'es indépendant de fortune, mais t'es cheap à côté.
Ben, j'ai pas besoin de travailler.
T'es un cheap.
Toi, tu mets ça à ça?
Ouais.
Tu mets la barre à si t'as pas besoin de travailler.
Je suis libre financièrement, mais...
Mais avec un mode de vie.
Si je m'achète un bateau puis deux chalets, ben, je suis plus libre. Fait que je suis libre, tu sais, je le dis ouvertement, je suis libre financièrement, mais il faut que je vive modestement.
Mais ouais. Si on vit dans la rue, on est-tu indépendant de fortune? Si,
oui.
Ah, tu sais, non, mais...
Mais c'est relatif.
Avec un mode de vie à combien par année?
Un mode de vie, tu veux dire, personnellement, mon coût de vie... Ben moi, j'ai un coût de vie, je suis pas gêné à le dire, j'ai un coût de vie à peu près de 80 000 par année.
Mais mettons, indépendant de fortune, toi, tu le mets au moment où tu n'as pas besoin de travailler par année.
Ouais.
Mais le minimum... Pour un indépendant de fortune, selon ta façon de voir les choses, ça serait à combien
de moins qu'il rentre, faut au moins qu'il rentre 50 000 net. Là. Ouais. Quelqu'un qui a un bon placement, une rente viagère, qui est indexé au coût de la vie, puis qui est capable d'aller chercher, je sais pas moi, 50, 60 hein, de nos jours, puis qu'il n'y a pas de paiement. Là. Il faut vraiment... Parce que c'est presque inimaginable pour quelqu'un. On en a parlé un peu dernièrement là, des fonds de retraite de 55 ans, 53 ans, 50... Moi, je t'avais vu beaucoup de l'actualité. Là.
Ouais.
On en parlait dernièrement avec les retraités d'Hydro-Québec. Bon, évidemment, c'était pas la majorité, mais il y avait un petit groupuscule qui avait quand même... C'est un beau privilège d'avoir une retraite à 55 ans. Mais des fois, les gens n'ont pas idée... moi, j'ai pris ma retraite à 52. Ça prend beaucoup en avant, énormément. Puis moi, j'ai sacrifié, puis je suis pas gêné de le dire, j'ai sacrifié un gros montant que j'ai transféré dans une rente viagère. Fait que là, tu te dis, est-ce que je m'achète une Lamborghini ou je m'achète un 1953 par mois de rente viagère indexée? Tu sais, je veux dire, c'est toute une décision à prendre. Quand tu sacrifies un montant d'argent dans une compagnie d'assurance qui te transfère ça en rente viagère,
ouais.
Ça veut dire que c'est à vie, c'est un montant. Je vais toujours manger à vie, mais j'accepte quand même de sacrifier... une petite fortune
exact.
Pour avoir un montant par mois équilibré.
Exact. Puis ça dépend où tu
vis. Avec des enfants aussi, c'est de la sécurité.
Des fois, je vais aux toilettes, puis là, je tombe sur TikTok. Et là, je regarde des TikTokers et TikTokers qui se promènent à travers la planète. Moi, je suis un gars qui aime bien voyager là, à travers les yeux des gens, puis j'aime bien voyager moi aussi. Puis, tu sais, il y en a qui me parlent du coût de la vie, là, quand ils voyagent. Puis, tu sais, quand ça te coûte 3-4 piastres par jour pour manger, là, je veux dire, le coût de la vie n'est pas très élevé. Tu sais, ici, tu peux être considéré comme un pauvre, mais là-bas, tu serais
absolument.
Considéré comme un riche.
Mais avec ton salaire d'ici, par exemple, tout est dans le ratio.
Oui, mais admettons qu'à 65 ans, tu vends toutes tes affaires, puis il te reste quoi, un genre de 150-200, là.
Oui.
Bien, ici, tu ne t'offres pas longtemps avec ton 150-200. Mais si tu prends ton 150-200, puis tu t'en vas dans un pays où le coût de la vie n'est pas très élevé, tu peux vivre comme un roi jusqu'à la fin de tes jours si t'es en santé.
Mais c'est vrai ce que tu dis. Ben ouais, si t'es en santé. Souvent, c'est ça qui est le stress en vieillissant. C'est je m'en vais-tu rester en Asie? Puis qu'est-ce qui va se passer s'il arrive de quoi? Mais en même temps, tu as 100 000 de côté. Ici, t'es cassé pour ta retraite. Mm. Mais tu t'en vas quelque part en Asie puis tu peux faire pas mal d'années.
Ah oui,
t'as tout à fait raison. Il y en a plusieurs qui le font d'ailleurs. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Tout est relatif. T'sais, moi, je préfère avoir un montant qui entre par mois, plus on a toujours, comme on dit, des dividendes. Tu sais, tu investis toi aussi. Il y a du dividende, il y a du revenu d'immeubles locatifs. Là, c'est un peu diversifié. Puis tu te dis, ben c'est quoi le pire scénario? Ben, le pire scénario, ben il peut arriver des imprévus à la retraite, mais au moins, tu te dis, tu as toujours assez d'argent pour aller faire l'épicerie, payer la base. Puis j'ai deux enfants qui sont relativement jeunes encore à l'école privée. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent net qui part pour payer de l'école privée, parce que c'est pas déductible, l'école privée.
Non, exact. Mais juste fait avant, ta rente viagère, tu me dis que c'est 1900$ par mois.
Non, là. C'est un chiffre que j'ai envoyé comme ça, okay. Mais on n'est pas loin de ça.
Mais mettons que c'est 2000$ par mois, là, ta rente viagère que tu reçois jusqu'à la fin de tes jours. Là.
OK? Ouais, indexé.
Bon, tu veux, t'abandonnes tes enfants, t'abandonnes ta femme, puis tu t'en vas en Asie.
Gros projet.
Tu peux vivre comme un roi là-bas, là, à 2000$
ben, oui, ben
par,
c'est ça, exact.
Par mois, là.
Exact, plus des revenus locatifs. Ben, tu sais, les revenus locatifs...
C'est juste que tu tombes sur des madames qui sont des fois des messieurs, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, les revenus locatifs, ils sont soit en revenus, en cash flow positif mensuel, ou sinon, ben ces immeubles-là peuvent être vendus de façon ponctuelle, là, tu sais, d'y aller avec une stratégie fiscale. Tu vends les immeubles, puis là, ça devient aussi du capital que tu peux utiliser, que tu peux décliner aussi. C'est sûr que quand tu prends une rente viagère, ben tu mets pas nécessairement, en tout cas, ça dépend, mais tu mets pas toute ta liquidité. Tu sais, tu as 1,3 million de côté, tu transformes ça en rente viagère de 3 200$ par mois à vie. Peut-être pas, il y a un équilibre à faire. Mais c'est quand même un produit intéressant pour des gens qui ne sont pas matérialistes, des gens qui sont plutôt simplicité volontaire, frugale. Je me considère entre les deux, mais j'écoutais des reportages sur M. Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, qui est décédé. Il a mis fin à ses jours là, avec l'aide médicale à mourir vendredi passé, sauf erreur. Mais bref, paix son âme, mais c'est un monsieur qui a enseigné. Puis c'est quand même intéressant, sa philosophie. Là, je trouve ça très, très beau. Mais en même temps, la simplicité volontaire dans le monde qu'on vit, c'est difficile, c'est quasiment... Et ça devient une drogue, la consommation. Fait qu'il faut que tu aies quand même soit des liquidités à chaque mois, en plus du capital, et des investissements qui peuvent être vendus éventuellement. Et là, ça se décline sur le nombre d'années. Il te reste-tu 30 ans à vivre, 40 ans à vivre, 50 ans à vivre? Ceux qui prennent leur retraite à 40 ans, là, le mouvement FIRE, c'est pas évident. Là,
parce je trouve que c'est stressant avec les imprévus.
50 ans à vivre.
Les
là.
Imprévus, stress. Je veux dire, hier, là, moi, j'ai eu un accident, puis il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans. Quand même que j'aurais voulu le prévoir à un certain degré, tu sais jamais, au final, qu'est-ce que ça va être comme lourdeur financière, ces imprévus-là, peu importe lesquels. Là.
Exact. Quelqu'un qui t'a rentré dedans hier? Quel genre de soirée que tu as eu?
Mais
non, mais elle parle d'imprévus, peu importe que
tu parles d'un accident de voiture.
Peu importe que tu te fasses
si
rentrer dedans
ou pas.
Si
c'était un accident, se faire rentrer dedans.
Se faire rentrer dedans, ça peut coûter cher, c'est bien sûr.
J'ai-tu le droit d'utiliser le terme imbécile, moi, pour me défendre des fois?
Ben moi, j'allais t'autoriser, mais en tout cas...
OK, hey, on parle du taux fixe ou taux variable, OK? Il y a plusieurs personnes qui vont devoir, dans les prochaines semaines, les prochains mois...
Oui, beaucoup.
Renégocier leur taux avec leur caisse ou leur banque, OK? Et moi, tous les hommes riches que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont toujours dit, Yann, c'est taux variable constamment. J'ai un de mes chums qui est multimillionnaire qui m'a dit « Yann, moi, ma technique à moi, c'est variable, sauf que je prends le taux fixe puis je place le reste. »
C'est ce qu'il faut faire.
Donc, c'est je signe variable, mais le montant que je donne, c'est comme si c'était un taux fixe.
Très
bien. Ce montant-là est placé. Fait que s'il y a de la fluctuation par le haut, ben je vais être correct comme si je l'avais toujours mis au taux fixe, exemple. Je trouve que c'est une belle stratégie. C'est-tu vrai, ça, que les gens riches utilisent souvent le taux variable?
Oui, je pense que oui. Mais tous les investisseurs immobiliers sont en variable parce qu'ils veulent éviter, tu sais jamais des fois quand est-ce que tu vas revendre, tu vas flipper ou tu vas renégocier ou quoi que ce soit. Tu veux te garder cette flexibilité-là parce qu'évidemment, en taux fixe, tu sais, 5 ans fixe, on va dire une affaire, Pascal parlait d'imprévu. Il arrive des séparations, il arrive toutes sortes de situations. À deuxième, troisième année, il n'y a pas grand monde qui se rend jusqu'aux 5 ans fixes. Dans les statistiques, là, les petits couples, là, c'est 1 sur 2 qui finissent leurs 5 ans. Ils finissent surtout par payer des pénalités entre le fameux taux affiché, le taux qu'ils ont payé. Et là, la différence qui se retrouve en pénalité chez nos prêteurs plutôt traditionnels, tu as des banques virtuelles qui ont peut-être moins ce problème-là parce qu'ils n'ont pas le fameux taux affiché versus le taux payé. Là, c'est la même chose. Mais ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Vous allez voir un courtier hypothécaire qui est bien plus spécialisé que moi. Moi, j'en parle en général. Puis je suis peut-être quelqu'un aussi d'expérience parce que j'ai eu quand même plusieurs maisons dans ma vie, là, plus d'une dizaine. Personnellement, je parle. Fait que moi, j'ai toujours été en variable ou presque. Il y a peut-être une exception ou deux où j'ai été en fixe à un moment donné. Mais puis dans mes immobiliers commerciaux ou locatifs plutôt, je suis en variable aussi parce que j'aime avoir cette flexibilité-là. Puis d'aller avec une marge de crédit hypothécaire, puis d'y aller avec un 20%, tu sais, puis les petits couples qui veulent acheter une maison là, prochainement aussi, parce qu'il y en a qui renouvellent, il y en a qui veulent acheter une maison. Puis moi, j'ai des questions sur mon groupe financier là, sur Facebook, questions financières, du financièrement parlant podcast, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait, fixe ou variable? Bien là, ça dépend tellement d'affaires. Ça dépend de ton profil d'investisseur. Tu sais, je veux dire, t'es quel genre d'investisseur, toi? T'es-tu quelqu'un qui a du lousse s'il arrivait quelque chose? Tu sais? Moi, quand j'ai acheté ma maison personnelle, la maison actuelle que j'ai, Ben, c'est un jumelé qui a été payé en bas de 200 000 à l'époque, puis qui aujourd'hui vaut peut-être 300, 300 quelques. Tu comprendras que je me suis pas étouffé avec ma maison personnelle. Moi,
non,
là,
c'est
là.
Ça.
Puis j'ai mis 40 % de cash à l'époque.
40 % de cash?
Oui. Fait que là, tu sais, le taux d'intérêt...
C'était pas le même prix non plus.
Le taux d'intérêt, il y a un impact aussi, là. Prends-tu... je l'ai à 4 %. Moi, j'étais à 4,5. Moi, j'étais à 3,80. Oui. Mais tu sais, tu regardes le taux d'intérêt puis ils mettent ça sur 30 ans. T'es bien mieux payé sur 15 ans si t'es capable. Tu sais, quand tu payes sur 15 ans, tu vas payer deux fois moins d'intérêt que sur 30 ans.
OK. Parle-moi de la notion du pourcentage. Quand tu signes, exemple, à 4 %, là, je sais pas, est-ce qu'une hausse de taux de 1 %, est-ce que ça change drastiquement les coûts? Parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de calculer l'hypothèque à 4 % ou 3,5. Quand tu leur parles de ça, là, ouais. Un peu, là, si ma maison vaut, je sais pas moi, 100 000, je signe à 4 %, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ça va être 4 000 piastres d'intérêt.
Oui.
T'sais, explique-nous comment ça fonctionne.
Ben, j'ai sorti un peu de chiffres, puis je voulais pas t'es envoyer parce que je vais te faire deviner. Non, c'est pas vrai.
Mais c'est parce que tout le monde est mêlé.
Ben oui, c'est ça, c'est mêlant. Mais tu sais, si on regarde, mettons, la différence de, je sais pas moi, entre 4 et 5 %, ben ça représente près de 10 000 $ de différence sur 5 ans. C'est près de 200 $ par mois.
1%
sur une maison, sur une hypothèque, pas une maison, mais une hypothèque de 300 000. Mettons que la maison était 300 quelques, là, puis là, t'as une hypothèque 300, là. Fait que c'est pas... Je suis allé vraiment dans un range, là, tu sais. Je te dirais que le prix moyen aujourd'hui, c'est plus 350-400 ici à Québec, là.
Fait qu'en 5 ans, tu peux sauver 10 000 piastres si tu es 1 % plus bas...
1 % plus bas.
...que le taux fixe avec ton taux variable. OK.
Ben, moi, je compare... c'est parce qu'il faut juste l'amener de la bonne façon, là. C'est la différence entre le taux fixe, exemple, 5 %, le taux fixe, 4 %. En partant, tu peux avoir taux fixe 4, taux fixe 5, là. Puis ça dépend où tu es. C'est pour ça que c'est quand même assez préoccupant de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les taux. Mais là, il y a une affaire qu'il faut mettre au point en partant, là. Yann, j'aurais peut-être dû tout de suite mettre ça, là. C'est que le taux fixe est influencé par les marchés financiers obligataires, les obligations 5 ans du Canada. Et le taux variable, il est influencé par le taux préférentiel qui, lui, est influencé par le taux directeur. J'espère que je n'ai pas mêlé personne. Or, le taux directeur, tu te règles du pouce, tu ajoutes 2 % à peu près, tu vas avoir ton taux préférentiel chez tes institutions financières. Et ton taux préférentiel, tu enlèves 1,5, pas 1, mais 0,5, et tu vas avoir ton taux variable. Alors que le taux fixe, lui, est influencé par les marchés financiers, les obligations. Bien sûr que la situation économique macro, inflation, PIB, récession, etc., peut influencer, bien sûr, un taux ou l'autre. Mais ce sont vraiment deux cases complètement différentes. Il faut savoir un peu la mécanique, comment ça fonctionne. Il y a trop de gens encore qui, même je me fais écrire, le taux directeur a baissé, puis mon hypothèque n'a pas... T'es en fixe. Ça le dit.
C'est sûr que ça baissera
c'est
pas.
C'est fixe.
Ça va être au renouvellement que tu vas le savoir.
Au renouvellement, mais selon les obligations du Canada à ce moment-là.
Prenons le cas de Pascal. Pascal veut s'acheter, je ne sais pas moi, un condo ou une maison. Puis là, on lui pose la question, est-ce que tu veux taux fixe ou taux variable? Toi, tu lui conseillerais taux variable, mais tu devrais lui poser les questions. Est-ce que tu es capable d'absorber comme une augmentation de 200$?
C'est exactement ça. Mais en fait, si elle me le dit dans le cadre de porte, là, puis hey, prendrais-tu fixe ou variable, là? Moi, j'essaierais de savoir son profil d'investisseur. On part du profil d'investisseur. La première chronique que j'ai faite ici, là, peut-être un an, même pas, là, on avait parlé du profil d'investisseur pour investir à la bourse, pour investir sur les marchés ou peu importe, dans différents placements. C'est la même chose pour l'hypothèque. C'est quoi ton profil d'investisseur? Puis si quelqu'un a un profil prudent, conservateur, ben là, oui, il est mieux d'être dans le fixe puis de savoir exactement à quoi s'en tenir. Mais quelqu'un qui dit, non, non, moi, je connais les aléas de la bourse, je suis capable de supporter. Ce que j'investis, je peux le perdre pendant un bout. Je sais que ça va remonter. Puis j'ai du lousse, il n'y a pas de trouble. Là, il est bien mieux d'aller dans le fixe.
OK.
T'sais, ça dépend de ce que tu es capable de prendre. De toute façon, d'aller dans le variable, excuse-moi. Fait que le fixe, pour le prudent et le variable pour quelqu'un qui a plus de lousse. Puis de toute façon, ton variable, si tu as plus de lousse et tu es capable de te permettre un peu de différents soubresauts, bien ton variable, tu peux toujours le fixer à un moment donné.
En mettant toujours le même montant puis en économisant la différence?
Bien, là, ce que Yann parlait comme situation dès le départ, là, c'est que tu peux être en variable puis tu décides de donner toujours un petit peu plus. Rappelez-vous d'une chose, là. c'est le temps qui fait la différence. T'es bien mieux de payer sur 15 ans. Fait que le beau-frère qui, lui, lui, il a un taux, il paye quasiment 6 %. Il avait signé, là, de... Ouais, mais lui, il paye sa maison en 15 ans. Il va payer bien moins d'intérêt que toi à 4 % qu'il a mis ça sur 30 ans. 15 ans, c'est deux fois moins d'intérêt que sur 30 ans. Le temps, autant le temps en investissement, autant le temps au niveau des placements. Puis il y a des gens qui pensent encore que, tu sais, ta carte de crédit, si tu traînes une carte de crédit, je ne sais pas moi, à 20 quelques %, puis là, des fois, tu dis, qu'est-ce que je paye en premier? Bien, ça se peut des fois que, ou sur un prêt personnel à 10 %, meilleur exemple, sur un prêt personnel à 10 %, ça se peut que finalement, ta maison, c'est elle qui te coûte plus cher en intérêt. Mm-hmm. Non, c'est à 5 %, c'est pas si pire. Oui, mais t'es sur 30 ans. Tu ne payes que des intérêts à l'année.
Exact.
Sur tes premières années. Tandis que ton prêt à 10 %, si tu le règles en 3 ans, il ne faut pas juste comparer le pourcentage d'intérêt relié au prêt, mais c'est au niveau de la durée.
Mais je la sais, la patente. C'est que le premier réflexe des gens, avant de rencontrer des spécialistes, c'est de voir le paiement que ça va te faire par semaine ou par mois. Moi, j'ai toujours pris par semaine, là. Mais eux autres, ils se disent, je veux le plus petit paiement possible par semaine, ce qui va faire en sorte que je vais être capable de m'acheter d'autres affaires puis de bien vivre.
Et c'est là-dessus, comme... c'est tout.
Les gens ne pensent pas à long terme. Il y en a qui ont les capacités financières de penser à long terme, puis il y en a d'autres qui se disent, regarde, je veux une belle maison où je veux élever mes enfants avec ma conjointe ou mon conjoint, puis je veux les plus petits paiements. Que ça prenne 25 ans ou 30 ans, je m'en fous, je veux être capable de subvenir aux besoins. Mais la question qu'il faut se poser quand tu signes pour ton variable ou ton fixe, c'est, dans le cas où tu es variable, puis là, tu entends que la Banque du Canada là, prend une décision, là, puis pouf, augmentation de 1 %. Un point, mettons.
Ouais.
Je vais être capable de bien dormir les prochains jours? Là, c'est ça. Mettons, ça peut représenter 200 $, 300 $.
C'est ça. Sur une maison moyenne, ça peut être un 200-300 dès le mois suivant. Puis là, ben, les gens n'ont pas juste ça. Ils ont aussi un prêt sur une marge de crédit hypothécaire. Des fois, l'automobile. Des fois, c'est pour aller emprunter pour l'automobile, puis tout ça. Puis un petit conseil, ça slide, là. Ou sur le site, ça dépend de quelle région on vient. Il faut pas non plus aller chercher un prêt automobile avant de faire une démarche hypothécaire. Vous êtes en renouvellement ou vous êtes sur le point d'acheter une maison. Bien, allez pas vous embarquer sur un prêt automobile tout de suite. T'sais, gardez votre portrait financier, votre code de crédit, puis gardez tout ça le plus clean, le plus simple possible avant de faire une acquisition ou un renouvellement hypothécaire. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est les séparations de couple. Puis un des deux veut reprendre la maison. Là, sachez que si quelqu'un, par exemple, se sépare, bien, on peut maintenant rapper pour l'autre du couple, même s'il y a déjà, c'est-à-dire, il peut avoir déjà rappé. L'important, c'est que le premier rap a été payé, mais ce n'est pas le critère de ne pas avoir été propriétaire pendant 4-31 décembre. Un des deux du couple peut se servir de son REER pour racheter la part. Et ça peut être refinancé à 95 %. Ça, c'est récent.
Même si la personne a déjà rappé là, auparavant.
Bien, déjà rappé auparavant, mais il faut que son rap soit payé, première condition. Mais il n'y a pas la condition de ne pas avoir été propriétaire dans ce contexte-ci. Okay. Donc, des fois, on dit, bien, la maman reprend la maison, prend ses REER, puis ça peut être refinancé à 95 %. Informez-vous auprès d'un courtier hypothécaire, c'est très important. Puis ça peut aussi aider, justement, à celui ou celle qui part et qui va devoir payer une partie à l'autre, ce qu'on voit souvent dans les séparations. Donc, ça va être financé là, d'une manière. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités parce que c'est des choses qui arrivent énormément. Mais pour le fixe ou le variable, ça dépend de son état, ça dépend de son profil d'investisseur. T'es-tu quelqu'un qui dort ou qui dort pas quand c'est la situation, le stress? Si quelqu'un suit ça constamment, puis qui connaît un peu l'économie, puis qui est un peu à l'affût des différentes nouvelles, puis des choses, puis on pense pas que le taux... cette année, on ne pense pas que le taux directeur va monter, voire qu'il pourrait baisser une fois ou deux. Fait que là, on présume que le taux variable cette année pourrait arriver en bas du taux fixe, parce que là, il est un peu au-dessus, mais il pourrait arriver en bas. Parfait. Fait que si je prends un variable, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être plus bas que celui qui est en fixe, peut-être. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'a aucune idée. Puis peut-être que tu vas te dire, j'aurais peut-être dû fixer. Mais en étant variable, tu peux aussi éventuellement passer du variable à fixe.
Selon, même si tu as déjà signé quelque chose, tu n'as pas à y aller avec la chronologie du temps de pourquoi tu as signé, mettons, un 3 ans ou un 5 ans taux fixe, tu vas pouvoir faire évoluer la chose. Puis à un moment donné, si tu pognes un taux que tu aimes, rester dessus.
Bien là, exactement, parce que des fois, ça vaut la peine. Mais là, tu amènes un point intéressant, Pascal. Quand on signe une hypothèque, là, c'est pas juste variable. Il y a comme 100 produits hypothécaires différents sur le marché. Alors, est-ce que c'est un prêt qui est ouvert? Est-ce que ce prêt-là donne la possibilité de mettre un petit peu plus à chacun? Est-ce que ce prêt-là permettrait de prendre un fixe, c'est-à-dire de prendre un variable et d'avoir un prix fixe? Là, tu peux avoir un variable qui est fixe à ce moment-là. Et ce qui varie d'un mois à l'autre avec le taux directeur, c'est la portion capital et la portion intérêt. Mais ouais, tu ne le vois pas réellement dans ton compte parce que c'est toujours le même montant. Bon, ça, c'est une autre possibilité. Fait que là, c'est différents produits. En plus d'être, juste pour être plus mêlant, en plus d'être variable ou fixe, bien, il y a différents produits qui se déclinent. Et d'une institution à l'autre, il y a des variantes aussi.
Oui, puis des fois, c'est faut que tu négocies aussi avec ton institution. Moi, dans mon cas, quand j'ai vendu ma maison en Beauce, on nous avait parlé de refaire une hypothèque puis de re-signer, parce que c'est la mère de mes enfants qui achetait la maison.
Oui.
Fait que de re-signer une autre hypothèque avec un taux plus élevé, je dis non, c'est le même montant. Là.
Ouais.
Vous pouvez pas re-signer. Là. On va garder le nombre d'années. Je pense qu'on avait eu un méchant deal sur 7 ans. Là. C'était une promotion de Desjardins à l'époque. Puis eux autres, je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils étaient mal informés ou si c'était ça la politique, mais moi, il a fallu que je m'ostine un peu en disant non, c'est... il y a une propriétaire qui reste là, qui est responsable de l'hypothèque. Moi, je veux juste me libérer de mon hypothèque. Vous allez avoir le même argent qui va rentrer. Là.
Oui.
Puis là, au début, c'était non, il va falloir refaire. Puis là, finalement, on a réussi à conserver le taux. Puis j'ai entendu une histoire d'horreur où un couple avait acheté une maison à, je pense que c'était autour de 800 000 $ Puis la femme s'est séparée. Elle voulait acheter une autre maison qui était en dessous de 400 000 $
mm-hmm.
Et elle ne pouvait pas bénéficier du même taux d'intérêt si elle vendait sa maison avec son conjoint à 800 000 $ puis elle se rachetait une maison moins chère. Estimez-vous, là. Battez-vous ouais. avec les institutions financières. Parce que c'est vous, les clients, là. Vous êtes exact. Leurs clients. Puis si vous leur si vous les menacez de partir, bien souvent, c'est là où ils vont commencer à dire « Finalement, on a fouillé dans la filière et vous êtes tellement important à nos yeux que oui, peut-être qu'on pourrait peut-être... »
On a parlé à la directrice, puis finalement...
Ouais, c'est ça.
Mais soit qu'on reste à la même institution, puis là, oui, il y a des ententes possibles. Ça, c'est important. Là. Des fois, il y en a qui vont sauver justement des pénalités, comme on dit. Ils vont sauver les pénalités parce qu'ils vont rester avec le même prêteur. C'est certain que le prêteur n'est pas là pour perdre. Hein? Le prêteur, ouais. c'est une banque, c'est un commerce, c'est une business. On a des actions de banque à la bourse, puis on veut que les banques aillent bien. Moi, je suis content que les banques font de l'argent, puis j'en fais aussi. Fait que, non, mais c'est puis la coopérative des caisses Desjardins, ben je suis membre aussi. Donc, je suis content que les caisses fassent de l'argent parce que je suis membre de la coop. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut le voir comme ça aussi. Mais bien certainement qu'ils sont là aussi. Ben, ils sont là pour faire du commerce, puis ils sont là pour vendre des produits. Puis souvent, quand tu es client avec énormément, c'est-à-dire une ligne de crédit, une carte de crédit, un exact. Compte, un REER, un placement, ben là, c'est intéressant pour négocier aussi.
Mais battez-vous. Puis si ça marche pas, dites que vous allez aller ailleurs. Puis
battez-vous.
Ben souvent, ils vont trouver un programme qui existe depuis 1933 qu'on avait oublié, qui était poussiéreux, qu'on vient de dépoussiérer, spécialement pour vous aujourd'hui, madame.
1933, vraiment.
Exact. Pat Raymond, quand on veut entendre parler d'argent, on va directement sur ton podcast Financièrement parlant. Puis on se reparle la semaine prochaine, mon cher ami.
Avec plaisir.
Voilà.
Merci.
13h28, on fait une courte pause, on vient.
Marceau, le midi.